Bien. Chacun dans son coin.
Voilà, bonjour tout le monde. Bonne année à ceux qui n'ont pas encore croisé dans les amphithéâtres ou dans les couloirs. Alors, en fait, on va faire un débat sur les interfaces et les interactions et les expériences utilisateurs, enfin tous ces éléments-là avec Nicolas Roussel. Mais je voulais juste en introduction vous donner un petit mot d'historique, pourquoi cette réflexion-là. Alors, Nicolas va se présenter, il m'a dit je vais mal le faire ou pas complètement sur les éléments. On se connaît en fait depuis suffisamment longtemps pour interagir sur la partie IA, à la fois régionale, enfin sur tous les éléments qu'on peut avoir en commun. Des discussions aussi sur les interfaces, puisque on a tous les deux travaillé sur la partie IHM, IHS dans nos recherches respectives. Et depuis quelques temps, notamment, c'était, en fait, je crois que c'était à l'occasion de la préparation de Naya Air, qui était donc un événement qui a eu lieu en décembre, mais qui avait été reporté depuis plusieurs fois, et qui était sur la Nouvelle-Aquitaine et l'intelligence artificielle, où on s'est retrouvés tous les deux à discuter un peu des programmations qu'on pouvait faire. Et moi, j'ai trouvé intéressant les discours qu'on avait sur les interfaces et les interactions. Et je lui ai dit, n'en disons pas plus, on va faire un débat en live comme ça devant vous, parce que ce sont des sujets qu'on connaît bien, avec des approches peut-être différentes. On va voir si on a des terrains d'accord ensemble. L'affiche préparée par Christelle n'a rien à voir avec ce qui va se passer. Hein. Ce n'est pas un ring qu'on va avoir.
On va voir
s'il y a pas. Il y a peut-être quand même des rounds des différents éléments. Mais il s'agit vraiment d'essayer d'éclairer devant vous, en fait, notre pensée qu'on a sur ce qui est en train de se passer, sur ce qu'on appelle globalement les interactions entre les humains et les systèmes, à la fois à travers l'historique de ce qu'on a pu voir, et puis ce qu'on imagine dans nos recherches respectives, et dans nos équipes respectives, puisque donc, sans trop dévoiler un peu ce que tu fais, ça t'arrive de manager des gens aussi, Nicolas. Alors, je pense que vous connaissez ce qui se passe à l'ENSC, vous savez la partie IA sur laquelle je travaille, et ces éléments donc, d'interface qu'on peut avoir ensemble. Donc je vais te laisser la parole, Nicolas, pour parler un petit peu de ce que tu fais, ton historique, et ton parcours sur ces interfaces interactions. Et puis, toutes les 5 à 10 minutes, on passera la parole l'un à l'autre pour essayer de rebondir sur ces éléments-là. Et on a prévu de faire 3 quarts d'heure environ d'aller-retour, puis après de prendre des questions sur ce qui vous interpelle. L'idée, c'est vraiment se baser sur nos expériences respectives pour essayer de voir quelle est l'interaction avec les machines qu'il va y avoir dans le futur. Voilà. C'est à toi.
Ok. Bonjour à toutes et tous. Peut-être juste n'hésitez pas à intervenir en cours de route, parce que sinon ça fait discussion de vieux, même pas au coin du feu. Donc je m'appelle Nicolas Roussel, je suis chercheur chez INRIA. INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies Numériques. J'avais dit à Benoît que j'allais me présenter, parce que ici, ma principale fonction ici, c'est que je dirige le centre INRIA qui est derrière, là, 2 bâtiments plus loin, avec un énorme logo INRIA dessus. Donc, il y a des chances que vous l'ayez eu. C'est un bâtiment dans lequel Jérôme Farrakou travaille de temps en temps, par exemple. Donc c'est un centre de recherche avec une vingtaine d'équipes. Mais donc je fais ça depuis 5 ans. Avant ça, j'étais chercheur et avant ça, j'étais étudiant. Et si je suis là avec Benoît pour discuter, c'est pas tellement parce que je dirige le centre INRIA, mais c'est plutôt à cause de ce que j'ai fait avant et qui continue de m'intéresser. Donc à l'origine, moi je suis informaticien de formation. J'ai fait des études à la fac. J'ai fait un DUT informatique, une licence, une maîtrise, un DEA, une thèse. Et en fait, en thèse, j'ai découvert, enfin en DEA, donc ce qui correspond à un master aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose qui s'appelait à l'époque l'interaction homme-machine. Donc maintenant, on appelle ça l'interaction humain-machine. Et alors, c'était à la fois une découverte, mais c'était aussi l'atterrissage de trucs qui m'intéressaient par le passé. Donc, quand j'étais jeune, je lisais un magazine qui a disparu, je crois, depuis, qui s'appelait Sur ces micros, mais dans lequel il y avait des articles réguliers sur des gens comme Ted Nelson, sur Alan Kay, sur Steve Jobs aussi, mais celui-là, il est plus connu, sur le Xerox PARC. Ils sont peut-être des noms ou des endroits dont vous avez entendu parler. Et donc, je m'étais un peu intéressé à ce genre de truc, et c'était un pan d'informatique qui, à l'époque, hein, c'était au siècle dernier, n'était pas si enseigné que ça, en fait, à l'université. La partie interface machine, interface graphique, était assez peu enseignée, au point que quand moi j'étais en DEA, en Master 2, c'était enseigné une année sur deux. Et donc j'ai eu du bol, ou pas. L'année où j'étais là, le cours était proposé. Et donc j'ai suivi le cours, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait un, à un moment, il fallait faire une étude d'article. J'ai bossé sur un article du Xerox PARC sur de la visualisation interactive d'information. C'est intéressant. Et donc, on m'a proposé un stage dans ce domaine-là, et après le stage, une thèse. Donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai bossé sur l'utilisation de moyens vidéo pour coordonner des groupes de gens, les faire communiquer, les faire collaborer. Donc, j'ai développé des outils de visioconférence en 1995, 16, 17, jusqu'au début 2000. Donc, des trucs qu'on utilise tous là en ce moment, j'en ai fait plein, en fait. Et de plein de façons différentes de ceux qu'on utilise aujourd'hui, d'ailleurs. Donc j'ai commencé comme ça, puis après j'ai travaillé sur des interfaces graphiques, puis après j'ai travaillé sur des interfaces serveur-ordinateur, puis des interfaces tactiles, puis quoi d'autre, un peu de visualisation d'informations aussi, des interfaces à retour haptique, donc tout un tas d'interfaces. Et en général, quand je raconte ça, peut-être une réaction que les gens peuvent avoir en face, c'est « mais en fait, il sait pas ce qu'il veut, ce type, il n'arrête pas de changer de sujet sans arrêt ». Et alors oui, c'est vrai. Mais le point commun à tout ça, justement, c'est pas la focalisation sur un type particulier d'interface, c'est plutôt un intérêt global pour l'interaction humain-machine, donc c'est ce qui se passe en fait entre les gens et puis les systèmes informatiques. Et j'ai été chercheur, enfin enseignant-chercheur puis chercheur en interaction humain-machine jusqu'en 2017. Et au moment où je suis devenu directeur ici, le truc qui m'intéressait, c'était l'interaction avec les systèmes apprenants autonomes. Donc ça, c'est un truc dont je pense qu'on va pouvoir parler. C'était le moment où, 2016-17, c'était le moment où beaucoup de gens parlaient des véhicules autonomes, beaucoup de gens commençaient à dire qu'il fallait faire des véhicules autonomes. Et donc moi, ça m'intéressait, ça. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir ce que ça pouvait entraîner comme changement, le fait que les systèmes avec lesquels on interagit soient apprenants et autonomes par rapport à des systèmes complètement crétins, sachant que ça aussi, on va peut-être y venir, mais moi je préfère a priori les systèmes crétins aux systèmes apprenants autonomes. Mais maintenant, vu qu'ils sont partout, il faut faire avec. Je ne sais pas comment tu veux qu'on commence la discussion, mais ça te donne un peu une idée de d'où je viens.
Pour lancer la discussion, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le... J'ai perçu, mais on va voir si c'est vraiment des points de divergence ou pas, mais dans les discussions qu'on a pu avoir jusqu'à présent, j'ai essayé de t'amener ce qu'on développe ici à l'ENSC sur l'UX, donc sur l'expérience utilisateur, la réflexion qu'il y a autour, et je sentais à chaque fois un peu, pas des réticences, mais des éléments du genre, ah ben tiens, voilà. Et donc c'est ça que je voudrais qu'on développe un peu plus. Donc on a travaillé donc effectivement sur les interfaces. Alors le terme IHM a changé, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des communautés qui ont travaillé sur le CAI, le Computer Human Interaction, ou bien le CIH, Computer, non, c'est le HCI, pardon, HCI, alors, Human Computer Interaction. Vas-y,
tu
connais
la blague
Vas-y, vas-y, mais dis-le.
Non, la blague, c'est parce qu'effectivement, donc en français, on a toujours dit IHM, les anglo-saxons disaient soit HCI, soit CAI, donc HCI ou CHI. Et la blague, c'était CHI met l'humain au centre et HCI met l'humain en premier. Voilà. Et donc à la fin, l'important, c'est que dans les deux cas, on s'intéresse à l'humain et moins à la technologie.
Et donc, c'est vrai que c'est communautés... Et en plus, c'était des communautés différentes, hein, HCI et CHI. Donc c'est-à-dire que ça correspond vraiment à des gens qui ont des approches différentes du problème. Et donc, de fil en aiguille, en France, les termes IHM ont évolué. Le terme H est resté humain. Alors si, il s'est passé de homme à humain, quand même, pour essayer de montrer quand même que c'est pas seulement pour les genrés masculins, c'est pour tout le monde. Et le terme I est passé de interface à interaction. Et le terme C, pour computer, est passé à machine, voire système. Donc en fait, on a toujours l'humain qui reste au centre, effectivement, ou en premier, enfin en tout cas, qui reste un élément intéressant et de prime abord. Mais le I est passé de l'interface à l'interaction, avec les capacités donc d'interaction, et le M est passé à système pour avoir quelque chose de plus large. Voilà. Ça, c'est l'évolution qui a eu lieu 70 jusqu'à 2010, on va dire. Et en 2010, est apparu un nouveau terme, enfin, il est apparu un peu avant, mais il a été popularisé à ce moment-là, qui est UX, qui, à mon avis, à mon sens, pour moi, rabat les cartes. C'est-à-dire que le terme d'expérience utilisateur ne fait même plus apparaître la notion de machine, même plus apparaître la notion d'interaction ou d'interface, mais déplace le problème de quelque chose qui était un positionnement d'un humain avec une machine ensemble, si vous voulez, humain et machine ou humain et système ensemble à un moment donné, avec cette partie interfacielle qui est la partie de connexion. Elle peut être interaction si on met un peu plus d'épaisseur à l'intérieur. Mais en tout cas, on passe d'une situation d'interaction à un moment d'expérience. Et pour moi, c'est ça qui rabat les cartes. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui était un lieu physique dans lequel finalement on trouvait humain et machine, à un espace temporel qui est complètement différent, dans lequel l'humain est plongé dans son quotidien à différents moments avec des machines. Donc c'est ça que je voulais voir avec toi, si tu veux, si je vais le développer après, hein, mais ce changement de positionnement, pour moi, rabat les cartes, et c'est pour ça que je ne parle plus d'interaction ou d'interface. Je trouve que les termes, c'est pas qu'ils sont has-been, c'est qu'ils ne décrivent pas la réalité de ce qui se passe entre les humains et les machines actuellement.
Ouais, mais donc, bon, alors sur le fond, on est d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis les grandes boxes. Je pense que ce qu'il y a, c'est que c'est. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui rassemblent des gens de communautés très très différentes. Donc, on a des gens, comme j'ai dit, comme moi, qui sont plutôt des informaticiens. Et quand on est informaticien au milieu des informaticiens, le combat, là, c'est d'arriver à faire comprendre qu'il faut s'intéresser à l'humain et pas forcément que à la technique. Et puis, il y a des gens qui viennent plutôt de l'ergonomie. Donc, tu n'as pas utilisé l'expression facteur humain, mais c'est quand même aussi une expression, enfin, un terme important dans toutes ces communautés. Et là, en tant qu'informaticien, moi, la critique que je peux faire sur l'ergonomie classique ou les facteurs humains classiques, c'est d'abord facteur humain, ça fait un peu comme. C'est un peu comme quand les gens parlent d'acceptabilité. Moi, c'est un mot dont j'ai horreur, ça, l'acceptabilité, par exemple. Parce que l'acceptabilité, ça laisse penser qu'on a fait le truc, puis ensuite on se demande si c'est acceptable, si ça peut passer, entre guillemets. Alors que justement, si on s'intéresse aux humains en premier, ben, la question d'acceptabilité ne se pose pas. Si je m'intéresse à vous et que je fais le truc exprès pour vous, normalement, à l'arrivée, il n'y a pas de problème d'acceptabilité. Et donc, facteur humain, c'est un peu, comme déjà un collègue copain qui disait, c'est un peu comme si ceux qui construisent des ponts disaient, il y a le facteur terrain. C'est-à-dire, je veux construire un pont, mais je suis obligé, c'est pas de bol, je suis obligé de regarder sur quoi mon pont va reposer. Là, c'est un peu pareil, c'est, ah, j'ai fait un super système, mais bon, malheureusement, il y a des humains dans l'histoire, donc je suis obligé de m'intéresser aux facteurs humains. Donc ça, c'est le genre de critique que côté informaticien, on faisait. Puis une autre critique qu'on faisait souvent sur les ergonomes dans le passé, c'était, vous êtes très bon pour nous dire qu'un truc est pas bon, mais vous êtes pas bon pour nous dire comment il faudrait le faire. Donc, ou alors vous faites des préconisations, mais c'est pas vous qui allez le faire derrière. Donc c'est pour ça aussi qu'on a vu à un moment donné arriver des ergonomes qui nous disaient « moi je suis ergonome concepteur ». C'est-à-dire, je ne suis pas juste là pour, une fois que le truc est fait, de vous dire « il aurait fallu le faire autrement, mais je peux intervenir en amont ». Puis plus en plus, les ergonomes se sont mis aussi à être capables de faire eux-mêmes. Et puis plus on est basculé dans le monde numérique, plus ça devenait facile, entre guillemets, de faire des choses. C'est plus facile de développer du code que d'aller fabriquer des objets avec du hardware. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de communautés, chacun regarde le même, tout le monde regarde le même objet, mais pas du même point de vue, et on a tendance à vouloir coller des mots un peu différents. Et je dirais même, on a souvent tendance à vouloir expliquer aux autres que les mots qu'on utilise et que le point de vue qu'on a sont les bons. Et j'aurais pas dit la même chose il y a 20 ans ou il y a 10 ans, mais je pense qu'il faut arrêter, parce que c'est contre-productif en fait. À la fin, il faut bien se concentrer sur les points communs. Donc les points communs, c'est pourquoi nous on s'est intéressé beaucoup à l'interaction et pas à l'interface. Parce que c'est tout con, c'est parce qu'une interface peut être parfaite dans un contexte et puis pas du tout adaptée dans un autre contexte. Vous prenez Siri, en supposant que ça marche, enfin un assistant vocal, c'est super quand vous êtes dans votre voiture et que vous êtes censé avoir les mains sur le volant. Par contre, si vous êtes dans un TGV ou dans un avion, c'est quand même un peu plus embêtant de raconter votre vie à votre téléphone quand il y a plein d'autres gens autour. Et c'est pas une question de qualité technique, c'est juste que le contexte fait que l'interface est adaptée ou pas. Et donc, quand on parlait d'interaction plutôt que d'interface, c'est une façon de capturer le fait qu'il faut prendre en compte le contexte, c'est situé, et donc ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Et le point important, c'est justement ce qui se passe. Et est-ce que ce qui se passe correspond à ce que la personne voulait ? Et c'est pour ça que quand j'enseignais, ce qui n'est pas arrivé depuis un moment maintenant, non seulement j'insistais beaucoup sur le fait que c'est l'interaction qui compte et pas l'interface, donc le phénomène, ce qui se passe entre vous et la machine, mais aussi sur le fait que finalement un autre bon terme à utiliser, c'est l'utilisabilité, parce que, et là pour le coup on reprend des termes qui viennent plutôt de l'ergonomie et sur lesquels il y a des normes et des définitions ISO, etc. Et l'utilisabilité, c'est juste est-ce que vous arrivez à faire le truc que vous voulez faire avec efficacité, efficience et satisfaction. Et donc ça capture plutôt pas mal le « est-ce que vous êtes content à la fois du résultat, de l'effort qu'il a fallu faire pour y arriver et de la manière dont ça s'est fait ?» Et donc, quand on parle d'expérience, j'ai l'impression que c'est un autre mot ou une façon renouvelée un peu de s'intéresser à cette partie-là, donc à ce que les gens vivent, à ce qui se passe, plutôt qu'à la techno qui est utilisée pour que le truc se passe.
Ouais. Là, on est d'accord, effectivement, sur l'adaptation, sur les contextes d'utilisation, c'est certain. Mais sur ces glissements de sens-là, si on est passé d'IHM ou IHS à UX, ça veut dire que les termes interface et machine ou interface et système sont devenus expérience et le H est devenu U. Alors déjà, sur le premier, le fait de passer du H au U, ça veut dire que le côté humain devient user et le côté user, justement, distingue le user du codeur ou de l'informaticien. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des informaticiens, j'en suis un, j'ai un doctorat aussi en informatique sur les mêmes thématiques développées juste à côté, là, d'ici. Et en fait, ils ont cette caractéristique, les informaticiens, c'est que quand ils vous disent quelque chose, en général, c'est très précis, c'est exact, mais ça ne sert à rien. Alors ça, je sais que tu n'aimes pas quand je dis ça. Et c'est une critique qu'il faut être capable d'entendre, parce que quand vous regardez un site web développé par un codeur, alors pas tous, hein, parce que bien sûr, maintenant, ces choses-là, à la fois les méthodes de fabrication des sites web, enfin, tous ces éléments ont été développés, ont été diffusés, hein, mais... Le travail de l'informaticien, qui est de faire réaliser quelque chose à une machine, il y a une telle satisfaction quand la machine réalise ce qu'on avait prévu de faire, qu'on considère que c'est la seule façon de le faire, et qu'on est super content. Et donc, quand un ergonome ou quelqu'un qui s'occupe des facteurs humains tape sur l'épaule de l'informaticien, il dit, tu sais, là ça marche bien, effectivement, pour toi, mais enfin, bon, tout le monde le voit peut-être pas, ça, c'est pas... Ah mais si, c'est marqué à l'écran, les gens vont le voir et tout, ben ouais, mais ils vont peut-être pas le lire pareil, tu sais, les gens sont pas tous pareils. Eh bien, à ce moment-là, la réaction de l'informaticien, c'est de dire, si ce que j'ai fait pour moi et que j'arrive à faire, que les autres ont qu'à faire un effort pour y arriver à l'utiliser aussi, si ça, ça ne marche pas, il va falloir 7 milliards et demi d'interfaces différentes, une pour chaque personne. Et donc, il faut lui taper une deuxième fois sur l'épaule en disant, tu sais, passer de 1 à 7 milliards, il y a peut-être des éléments intermédiaires, quoi. Tu vois, on peut peut-être essayer de faire des classes de personnes, de faire des personas, de faire des... Enfin, vous savez, après, tous ces éléments qui permettent de travailler sur les interfaces. Et donc le fait de passer de H à U a fait prendre conscience à toute la communauté des codeurs que finalement ce qu'ils sont en train de développer, c'est pas pour eux qu'ils développent, c'est pour quelqu'un d'autre. Et le fait de faire ça, ça veut dire qu'on va se mettre dans la tête qu'il y a des situations, des contextes différents, etc. Et donc je pense que tout le monde bénéficie de ce passage du H à U. Et je voudrais intervenir sur deux autres points sur ce H, enfin au moins un autre point sur ce H à U. Le U en anglais, c'est user. D'accord ? Seulement quand vous traduisez user en français, c'est utilisateur. Et quand vous traduisez « utilisateur » en anglais, ça devient « user ». Donc ça marche bien, si vous voulez. Mais il y a un autre terme qui existe en français qui s'appelle « usager ». Et quand vous traduisez « usager » en anglais, ça devient « user ». Donc quand vous prenez « usager », vous le traduisez en anglais, ça devient « user ». Vous le retraduisez en français, ça devient « utilisateur ». Et pourtant, en français, on a bien deux termes différents qui sont « usager » et « utilisateur ». J'en ai parlé à pas mal de collègues de différentes langues. Ça n'existe pas, ni en anglais, ni en allemand, ni en polonais, ni en italien, ni en espagnol. Les termes sont les mêmes, le user est le même. Et donc, finalement, il n'y a qu'en français où on a une distinction entre... En fait, si vous voulez, en anglais, la distinction va se faire en fonction du mot qui est employé avec user. Le end user, le public transportation user, le drive user, etc., vont donner des notations de user qui vont être différentes, avec ces notions de utilisateur et usager. Et moi, ce que j'en tire quand même comme conséquence, c'est que les users à qui on s'adresse, ils sont de deux capacités. L'utilisateur, c'est celui qui va prendre... Enfin, il peut prendre un effort intellectuel pour faire fonctionner son outil. Il est capable de se dire, tiens, il faut que je me forme, il faut que je lise une documentation, il faut que je regarde un peu, je vais explorer, je vais faire ça. Et donc, il a une bande passante intellectuelle pour s'intéresser à l'outil. L'usager, zéro. L'usager, il est intéressé non pas par... le moyen, mais par la finalité. Vous êtes usager des transports. D'accord ? Par contre, moi, je suis un utilisateur du TGV. Je connais plein de choses sur le TGV à force de l'avoir usé, si vous voulez. Donc, quand vous rentrez dans un transport, vous êtes usager, et à force d'expertise, vous devenez utilisateur. Et donc, utilisateur, c'est avoir un regard différent sur la chose, mais quand vous êtes utilisateur d'un outil, vous devenez usager, parce que forcément, vous n'avez plus votre regard qui va être soutenu là-dessus. Et donc, pour moi, le user, il cache derrière deux attitudes cognitives différentes qui sont, est-ce qu'en ce moment, je veux bien mettre de la bande passante pour regarder le moyen que j'utilise, ou est-ce que, basta, la seule chose qui m'intéresse, c'est la finalité. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous découvrez si vous êtes, vous allez dans les transports en commun, si vous êtes à Bordeaux, ici, là, vous êtes capable de rentrer dans le tram, etc., et de continuer vos pensées, et d'arriver chez vous sans avoir remarqué si finalement le tram était bondé ou pas, si les gens étaient debout, assis, si il y a quelqu'un avec un vélo qui était dedans ou pas. Voilà. Si par contre vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous rentrez dans, ou quelqu'un qui ne connaît pas Bordeaux, il rentre dans le tram, toutes ces choses-là, il va les noter par contre. Et donc vous voyez que l'état d'esprit du user, la même personne, va être différente selon finalement l'expérience, la familiarité qu'il peut y avoir avec l'outil. Et ça, le fait de passer de IHM à UX, pour moi, ça met en œuvre le fait que ce n'est pas le même H qui est le codeur et l'utilisateur, mais c'est aussi qu'il y a plusieurs capacités d'usage de la chose. Je continue ?
Non, parce que sinon, je note encore d'autres trucs. Oui, mais alors, bon, moi, je dramatise pas tant que ça, le passage de H à U, là, comme tu dis, l'utilisateur. Mais je pense que c'est pareil, ça dépend du milieu dans lequel on a baigné. Donc, moi, les gens avec qui j'ai commencé à travailler, là, comme je disais, à la fin du siècle dernier, c'était des gens qui, justement, avaient bossé au Xerox PARC, avaient baigné dans un monde de design, de psychologues, de sociologues. Moi, j'étais dans une équipe où... qui était dirigée par deux personnes, une des deux était psychologue de formation, l'autre était informaticien, et ça se passait très bien. Et donc, pour moi, quand on parlait de humain, et en plus la communauté ACM Sikai dans laquelle j'étais, donc, elle baignait aussi là-dedans depuis le début. Donc pour moi, la question ne se posait pas. Par contre, ce qui s'est passé effectivement dans les années 2010, là, comme tu disais, c'est que tout d'un coup, il y a eu une massification avec le développement de plein de choses, et notamment de plein de services numériques. Parce que tant que c'était des objets, ça restait encore dans un monde qui n'était pas forcément très accessible à des foules de gens. Mais quand on est passé dans la conception de services numériques, avec l'avènement du web, avec l'avènement de plein de trucs, tout d'un coup, plein de gens se sont mis à pouvoir concevoir des sites web, et quelque part, le poids des informaticiens tels que tu les décrivais, il a fortement diminué. Et les gens qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, c'était quand même beaucoup justement des gens du design. Il y a énormément de boîtes de design numérique qui se sont créées, puis qui se sont regroupées ensuite en associations et autres. Et pour moi, tout ce qui est UX et autres étoiles X qui sont sorties après, ils ont surtout été poussés par cette communauté-là, qui arrivait, qui n'avait pas du tout de background en informatique, qui s'en foutait, et puis qui codait en HTML et autres trucs, des tas de services, et dans lesquels ils s'intéressaient à des choses qui n'étaient pas du tout des aspects techniques, et la technique n'était qu'un moyen. Après, sur ton histoire de usager, utilisateur, là, ça pourrait nous emmener assez loin, parce que je vois bien des situations dans lesquelles il y a cette idée que... Alors c'est la théorie du flow, là, qu'on aimerait pouvoir utiliser les trucs d'une manière quasi inconsciente, et normalement d'ailleurs c'est ce qu'on arrive à faire quand on maîtrise bien le truc en question. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que le truc, ce terme, mais le service, l'objet, était forcément très simple au départ, parce qu'on a une grosse capacité d'apprentissage. Donc moi, il y a un dieu dans ma culture, c'est Douglas Engelbart, donc quelqu'un que je vous encourage à aller lire ou à aller écouter. Il est décédé il y a un moment déjà, mais il a dit plein de trucs. Il y a quelqu'un qui avait une vision fantastique de ce qu'on pouvait faire peut-être avec le numérique, et bien avant tout le monde. Et je me souviens d'une interview à la radio où il disait, il y a quand même un truc fantastique, c'est au début, quand vous apprenez à conduire une voiture, vous êtes tétanisé, le moindre truc que vous devez faire, ça vous paraît insurmontable. Et puis, pas forcément très longtemps après ça, vous vous retrouvez à vous engager sur la rocade ou sur une autoroute. Vous êtes à 100, allez, on va dire que c'est une autoroute, vous êtes à 130, vous écoutez la radio, vous discutez avec la personne à côté de vous, et vous regardez vaguement dans un petit bout de miroir, là, et il y a un poids lourd de 15 tonnes qui arrive, et ça vous paraît fastoche, normal, et vous y réfléchissez même pas. Quoi. Et donc, comment on a réussi à passer de « je suis tétanisé, je ne sais pas passer une vitesse » à « je m'engage devant un poids lourd de 15 tonnes et je le regarde juste dans un tout petit truc en faisant deux autres choses à la fois. » Et sache, donc je l'ai dit un peu de ton histoire d'usager, utilisateur, mais c'est aussi pour parler de ce que j'ai fait juste avant de venir à Bordeaux il y a 5 ans. Moi, je dirigeais une équipe qui s'appelait Mjolnir. Mjolnir, peut-être ça vous parle, c'est le marteau de Thor. Voilà. Alors pourquoi j'avais choisi le marteau de Thor comme nom d'équipe ? C'était pas pour embêter les gens qui ne savaient pas le prononcer ou l'écrire. c'est parce que il y avait plein de symboliques intéressantes rattachées à ça. D'abord, il y avait Heidegger qui a beaucoup écrit sur l'outil, la façon dont on les utilise, etc., et qui prenait souvent le marteau comme exemple. Ensuite, le marteau de Thor était intéressant parce que c'est un marteau qui est à la fois super puissant, donc dans la mythologie nordique, il fait naître des montagnes où il les écrase, dans les comics de Marvel, il fait plein de trucs avec, etc. Donc c'est un outil super puissant, mais ça reste un outil, c'est-à-dire vous le posez par terre, il ne fait rien tout seul. Et puis par ailleurs, surtout dans les comics de Marvel, c'est un outil qui se mérite, donc tout le monde ne peut pas le soulever, tout le monde ne peut pas s'en servir. Et donc pour moi, ça capturait assez bien la vision que j'avais de ce que devait être le numérique, c'est-à-dire un outil super puissant. Pour moi, le bon numérique, entre guillemets, c'est le numérique qui vous permet de faire des trucs que vous ne pouviez pas faire avant. Et pas juste de faire à votre place des choses que vous saviez faire avant, et pas juste de faire plus vite des choses que vous saviez faire avant, mais aussi de faire des trucs que juste vous ne pouviez pas les faire avant. Et pour arriver à ça, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi accepter que le numérique, ce n'est pas forcément un truc super simple, ce n'est pas forcément le truc user-friendly que ma grand-mère peut utiliser en sortant du magasin. Il faut accepter d'apprendre, et de la même manière que vous avez appris à faire vos lacets, vous avez appris à conduire une voiture ou une moto ou un vélo, de la même manière que vous avez appris à jouer de la musique, vous avez appris à jouer au tennis, quoi, je ne sais pas quoi, tout ça, ça nécessite de l'apprentissage, et donc pourquoi il faudrait que... pour un outil numérique, je l'achète et tout de suite je sache m'en servir. Parce que je pense que si on fait ça, on a un problème qui est qu'il y a un compromis puissance-simplicité qui est que, en gros, pour le dire vite, les trucs simples sont jamais puissants, les trucs puissants sont jamais simples. Vous pouvez chercher tous les exemples que vous voulez, il y a une belle courbe comme ça. Et donc, si vous prenez le truc le plus facile pour apprendre à faire du vélo, alors c'est soit le tricycle, soit la draisienne, mais la draisienne, bah, c'est à peu près, ça va à peu près à votre vitesse, c'est le truc qui n'a pas de pédale. Et le tricycle, c'est super, mais vous ne pouvez pas aller vite avec un tricycle, notamment, vous ne pouvez pas tourner, parce que pour aller vite en tournant, il faut se pencher, et sur un tricycle, vous ne pouvez pas vous pencher, parce qu'il y a des trucs qui vous empêchent. Et donc, quand vous apprenez sur un truc simple, un tricycle ou une draisienne, puis après, vous passez à un vélo, mais si vous voulez vraiment aller super vite sur l'autoroute, vous prenez une moto, vous ne prenez pas un tricycle, d'accord ? Et donc, à ce côté, il nous faut des outils puissants, et des outils puissants, forcément, à un moment donné, ça nécessite un apprentissage. Mais ce n'est pas un drame, parce que l'expérience humaine montre qu'on est capable d'apprendre des trucs très compliqués. Et avant de te repasser la parole, juste un exemple, quand je vous dis un outil numérique puissant, ça va vous permettre de faire des choses que vous ne savez pas faire avant, prenez le tableur Excel ou autre. Avec un tableur, vous pouvez faire des trucs qui étaient juste impossibles à faire avant. Avant, comment on comptait ? Bah, on comptait à la main, ou avec un boulier, ou deux têtes, ou avec une calculette qui sortait un ruban de papier, là. Et vous pouviez faire des sommes à l'infini, des multiplications à l'infini, mais vous ne pouviez pas dire « Ah, et si j'avais mis 3.4 là-bas, tout en haut de mon ruban, qu'est-ce que ça ferait à la place ?» Et donc avec le tableur, ce que les comptables et tous les gens qui font des calculs ont gagné, c'est la capacité d'élaborer des scénarios, de tester des hypothèses, de regarder ce qui se passe. Et ça, c'est énorme. Ça a changé la vie de plein de gens, en fait. Et sans compter qu'après, les gens se sont mis à faire plein de trucs avec des tableurs, y compris, évidemment, les jeux vidéo.
Alors, il y a un élément qui, pour nous, est assez fertile aussi au niveau de l'ENSC ici, quand on travaille sur ces histoires-là de UX, notamment. C'est qu'en fait, le U, il n'est jamais tout seul. Et c'est peut-être un des points de divergence dans la façon dont tu présentes les choses et la façon dont nous, on aborde les éléments. Alors, le fait que le U soit à plusieurs, nous, c'est dans cet amphi, moi, j'ai encore un souvenir ému, c'est en 2014 ou 15, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, finalement. Enfin, pour vous, ça représente... c'est antédiluvien, mais enfin, pour nous, c'est pas si vieux que ça. C'est quand le chef d'état-major des armées est venu nous voir, enfin, le chef d'état-major de l'armée de l'air, pardon, il est venu nous voir, en disant ce que vous faites est vachement intéressant, c'est très bien et tout. Vous travaillez sur la cognition individuelle. Enfin, je vous le fais courte, hein, c'est pas exact. Il a été beaucoup plus poli que ça. Mais ça sert, c'est bien, mais ça sert pas à grand chose. Car en fait, si on travaille sur la cognition individuelle, on va pouvoir travailler sur des éléments comme le pilote d'avion dans son cockpit, avec ça a un intérêt majeur, bien sûr. Mais il nous a dit, mais nous, les problèmes qu'on a actuellement, c'est plutôt comment on fait travailler des gens ensemble avec des systèmes. Et donc, c'est le problème de la cognition collective avec les systèmes qui se pose. Et donc, on a dit merci monsieur, enfin, il était très... Après, bon, vous connaissez le reste de l'histoire, il est devenu commandeur de l'OTAN à Norfolk, donc il nous a ramenés après dans des circuits internationaux, et en fait, il nous a comme ça tiré vers le haut sur la compréhension de ce que c'est que ce UX quand on passe sur le collectif. Et c'est comme ça qu'on en a tiré deux éléments qui sont les failles. Si les systèmes étaient tous UX designés,
il y aurait deux failles. Vous avez tous des systèmes qui sont très très bien faits. Regardez, mais prenez-les, ne serait-ce que ces histoires de tous anti-Covid, là, où il faut, quand vous avez une dose de rappel, il faut rescanner le truc, etc., plop, 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 très bien. Ça, vous savez faire, parce que vous êtes habitué à scanner des choses, et vous avez donc... Ça rentre dans votre phase intellectuelle de compréhension. Maintenant, allez expliquer à quelqu'un qui n'a pas de smartphone, ou il va prendre la feuille papier, enfin, tu vois, il va faire autre chose, mais allez expliquer à quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ces outils-là, qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus ? Eh bien, vous ne savez pas l'expliquer. Vous savez le faire, mais vous ne savez pas l'expliquer, parce que les outils sont très bien UX-designés. C'est-à-dire que vous ne faites même plus à vous-même l'effort de verbaliser ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous tâtonnez, en fait, ça finit par tomber en marche, enfin, ça finit par marcher. Heureusement, c'est fait, il y a une certaine affordance qui fait que ça fonctionne à peu près bien, quand même, heureusement. Mais la solution que vous avez adoptée, vous n'êtes même pas capable de la dire à vous-même. Donc, vous êtes incapable de dire au collègue qui est à côté. Quand il y a un navigateur aérien à côté d'un quelqu'un qui est en charge des ravitailleurs, à quelqu'un qui est en charge des, je sais pas quoi, enfin, vous savez, les systèmes de conduite d'opération aérienne, il y a plusieurs personnes qui sont côte à côte, qui ont leurs outils. Si le truc, il marche bien, ça fonctionne bien. Mais en général, il faut être capable de prévenir les fois où ça va pas bien. Parce que le ravitailleur, ben, il a dû se poser avant, il a dû faire... Donc, il faut réagencer les choses. Et là, il faut être capable de verbaliser. Il faut être capable de dire ce qui se passe. Et une des grosses difficultés dans les systèmes de management collectif, c'est que quand ça va pas, les gens arrêtent de parler. Quand ils savent pas comment faire, ils arrêtent de parler. Et c'est là, au contraire, il faut être capable d'échanger pour que les gens, que les idées émergent à côté. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, si tu veux, c'est que ce UX, il va falloir le doter de deux éléments qui sont, on l'a appelé le KX, en fait, le knowledge exchange, c'est-à-dire comment les machines peuvent faciliter l'échange de connaissances entre les gens. Et là, on a plein de thèses en cours actuellement sur ces éléments-là qui sont qu'est-ce que la machine peut aider dans la facilitation de l'échange de connaissances entre humains. La machine ne comprend pas forcément, mais elle détecte qu'il y a des trous d'un côté, des trous de l'autre, comment on peut avoir des ontologies comparées entre les deux, enfin bon, des éléments comme ça. Et le deuxième point qu'on n'a pas encore, qu'on avait sous le coude, qu'on sait que ça va arriver derrière, c'est ce qu'on appelle le HX, l'hybridity extension. C'est en fait le fait qu'un humain qui fait quelque chose avec une machine ne sait plus faire la chose sans la machine. Ça se voit avec un GPS, par exemple, si vous avez un GPS pour trouver votre chemin, et bien si le GPS est en... Si vous avez un doute par rapport au GPS, vous n'avez plus confiance dans le GPS, ou bien il tombe en panne, ou bien il y a des travaux qu'il n'avait pas prévus, bien vous êtes complètement désarçonné. Donc si vous voulez, le UX, c'est quelque chose de très bien, mais il va amener deux failles, qui sont la faille de la collaboration avec des collègues, et la faille de le contournement ou le prolongement de l'outil défaillant. Voilà. Et ça, c'est deux éléments que l'interaction machine, ou que les interfaces, ne prennent pas encore en compte actuellement.
À moi.
Oui.
C'est plus du tennis, en fait. Alors... Oui, donc tu as parlé d'affordance et du fait qu'il y a des choses que vous savez faire et que vous ne savez même pas forcément pourquoi vous savez les faire. Mais en fait, c'est pareil, c'est parce que vous avez appris. C'est parce que, donc, la première fois que vous voyez quelqu'un qui fait une manip sur son téléphone et puis qui secoue le téléphone, vous demandez, mais pourquoi il secoue le téléphone ? Et puis un jour, vous essayez et vous découvrez que, ah, mais je peux faire undo en secouant mon téléphone. Et c'est sûr que ça ne saute pas aux yeux en regardant le téléphone qu'il suffit de secouer pour faire undo. Mais une fois que vous le savez, c'est bon, vous le savez. Mais ça, c'est vrai sur plein d'autres trucs, en fait. Et si vous... Alors, je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais si vous voyagez un peu dans différents pays, vous allez vite comprendre que prendre une douche dans plein de pays, c'est super compliqué, en fait. Parce que, des fois, il y a beaucoup plus de robinets que... D'accord ? Chez nous, en général, il y a eau froide, eau chaude. L'eau froide est plutôt d'un côté, l'eau chaude de l'autre. Il y a du bleu, du rouge. Il y a plein de pays où c'est vachement plus compliqué que ça. Quand j'ai vu des... Au Brésil, j'ai vu des douches où il y avait au moins 3 ou 4 robinets. J'ai jamais compris pourquoi il y en avait autant. Et puis, il y a des pays où les robinets tournent dans l'autre sens, etc. Donc en fait, on construit notre rapport et notre expérience avec tout un tas de trucs, et pas seulement les trucs numériques, sur la base des expériences précédentes, sur la base de conventions convention collectives, pas au sens réglementaire, mais justement, rouge c'est chaud, bleu c'est froid, des choses comme ça. Et donc là, un problème qu'on a sur le numérique, c'est que, a priori, tiens, ce serait intéressant, parce que je ne sais pas trop quel background vous avez dans la salle, mais combien il y en a parmi vous qui ont eu un jour un cours d'informatique ? D'informatique, hein, au sens apprendre comment ça fonctionne un ordinateur, comment ça se programme, etc. Donc il n'y en a pas tant que ça, mais vous êtes...
Attends, comment ça ? Vous avez raté les cours ou...
Et si je reposais la question sur, avant de venir à l'ENSC, combien il y en a parmi vous qui ont eu des cours d'informatique? Il y en a peut-être encore moins, d'accord? Et si je posais la question de, jusqu'au lycée, combien il y en a parmi vous qui ont eu des cours d'informatique? D'accord? Plus on recule, plus moins il y a de gens. Okay? Donc on est quand même un pays qui a réussi à rendre l'informatique obligatoire avant le bac, uniquement il y a 2 ans. Donc jusqu'à il y a 2 ans, tous les Français qui traversaient le système éducatif, ils pouvaient, s'ils n'avaient pas de bol, ou s'ils avaient du bol, c'est comme on, ça dépend comment vous le voyez, ils pouvaient faire toutes leurs études sans jamais avoir ne serait-ce qu'une heure de cours pour expliquer un peu comment fonctionnent tous les bidules. Donc après, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y a toute une catégorie de gens qui ont des difficultés avec ça. Et non seulement il n'y avait rien de, dans la formation initiale, mais on n'a pas non plus mis en place des trucs ensuite pour expliquer aux gens... âgés ou pas, et qui n'avaient pas eu de formation à l'informatique, on a mis peu de choses en place pour les former. Comme je vous ai parlé du Brésil, il y a une époque où j'allais beaucoup là-bas, j'ai vu des super programmes pour expliquer à des gens qui savaient à peine lire et écrire comment prendre des rendez-vous médicaux en ligne, etc. Donc il y a des endroits où on s'est intéressé à l'électronisme, comme on dit. Et en France, on s'y est intéressé, pareil, assez tardivement. Donc je pense qu'il y a du boulot à faire sur l'acculturation des gens au numérique, il y a du boulot à faire sur la formation. Sur le GPS, c'est un petit peu aussi, pour moi, un peu le même problème, c'est on implique les gens ou pas? C'est-à-dire, le GPS, c'est pas le pire. Le pire, ce serait la voiture autonome. Parce que la voiture autonome, si je peux monter dans la voiture et regarder une série, je vais même pas regarder le paysage. D'accord? Donc là, pour le coup, je n'aurai aucune idée de par où je suis passé. Quand je suis mon GPS, ok, déjà, je suis, mais c'est quand même moi qui conduis. Donc je sais peut-être pas exactement comment j'ai fait pour arriver là, et des fois, c'est vrai. Mais enfin, je vois quand même un peu ce qui se passe, quoi. Donc je peux dire, tiens, je suis passé devant un McDo, je suis passé devant un Leclerc, je suis passé devant un fleuriste, ça m'aidera peut-être à retrouver le chemin. Et puis après, rien ne vous oblige à suivre le GPS. Hein. Okay. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que vous dit Waze, vous avez le droit de temps en temps de reprendre un peu le contrôle. Donc là aussi, c'est une question pour moi de comment on acculture les gens et surtout comment... on fait pour que les gens se rendent compte que c'est eux qui ont la main sur le truc et qu'ils ne soient pas juste, pour le coup, des usagers, pour reprendre ton terme, un peu passifs d'un bidule qui va les conduire du point de départ à l'arrivée, mais sans s'intéresser au chemin. Et quand tu parlais de prendre en compte la dimension collective ou collaborative, ben là, je vais revenir à Douglas Engelbart, lui, donc dans les années 60, hein, 1960, il écrivait des trucs du style « L'humanité est confrontée à des problèmes de plus en plus urgents et de plus en plus complexes ». Normalement, ça doit vous parler, hein, en ce moment. Et je ne vois pas comment on va arriver à résoudre ces problèmes autrement qu'en faisant travailler les gens ensemble. Et le numérique, ça doit être un bon moyen de faire travailler les gens ensemble. Et donc, lui et son équipe, c'était parmi les premiers à tester le réseau ARPANET qui est devenu Internet, c'était les premiers à mettre en place des systèmes de visioconférence, c'était les premiers à mettre en place des éditeurs partagés. Donc si vous avez fait un jour un coup de Google Doc, ben voilà, c'est d'accord. Et tout ça, vous pouvez le voir dans une vidéo qui date de 1968, d'une démo qu'il a faite devant un paquet de gens, en leur disant, la démo commence par, imaginez que vous ayez devant vous en permanence un machin qui peut calculer et vous aider à faire des trucs au quotidien, qu'est-ce que vous en feriez? Et après, il fait une démo de ben voilà, nous, ce qu'on a pensé qu'on pourrait faire avec ça. Et si vous la regardez, alors ça va vous paraître un peu vieux, mais il y a les bases de plein de trucs qu'on utilise aujourd'hui. Et ça, c'était en 68. Et quand moi, en 96, je suis allé à ma première conf avec mon directeur de thèse et qu'on est allé expliquer à des gens qu'on travaillait sur des éditeurs de textes partagés, collaboratifs, temps réel et des systèmes de visioconférence, la moitié des gens dans la salle se sont marrés en disant mais ça sert à rien ça. Ça intéresse qui de pouvoir écrire un document texte à plusieurs? C'était il y a 25 ans, d'accord?
Et d'ailleurs, juste un point, c'est, tu parles donc de Michel, hein, Baudouin, ouais. Lafont. Je l'ai vu dans les années 90, pareil, faire des démonstrations, donc je ne sais pas que c'était des travaux, mais je l'ai vu faire des démonstrations d'éditeurs de texte, donc de type Word ou OpenOffice, hein, ce que vous voulez comme éditeur de texte, où il montrait qu'en fait, quand on fait une recherche dans un texte, c'est beaucoup plus efficace, plutôt que de dire le nombre d'occurrences qu'il y a, d'utiliser le bandeau, enfin l'ascenseur qui est sur le côté, pour montrer où sont les occurrences. Et avec des petits traits sur chaque occurrence là-dessus. Eh bien, cette idée-là, qui est une idée absolument géniale, n'existe toujours pas dans les éditeurs.
C'est ce que je disais tout au début, quand je disais que moi j'avais travaillé sur des systèmes de visioconférence très différents de ce qu'on utilise aujourd'hui. Pareil sur les éditeurs de texte. Il y a des montagnes de trucs qui ont été faits super intéressants dans la communauté qui s'appelle CSCW, donc la communauté ACL. sur ce qu'on appelait à l'époque le groupe awareness, par exemple, sur par exemple le fait que quand on travaille à deux sur un document, c'est pas forcément super intéressant de voir en temps réel ce que l'autre personne est en train de faire. Peut-être on peut juste donner ce qu'on appelait à l'époque un écho sémantique de ce qu'elle est en train de faire. Donc, par exemple, mettre un nuage au-dessus de la partie de texte qui est en train d'être modifiée, qui vous dit, tiens, là, il y a quelqu'un qui est en train de travailler, c'est peut-être pas le moment d'aller taper dedans. Et sans nécessairement que je vois exactement ce que la personne est en train de faire. Parce que si vous voyez ce que la personne est en train de faire, si ça ne vous convient pas, vous allez peut-être avoir envie de changer ce qu'elle est en train d'écrire, vous allez avoir envie de lui dire, je crois. Et ça, moi, je connais des gens qui ont travaillé, si vous avez un jour utilisé des systèmes de gestion de version de code, type Git, Mercurial, un autre. Un problème que vous avez quand vous travaillez à plusieurs sur un logiciel, c'est j'ai la version du logiciel sur mon ordi, je suis en train de faire plein de changements, et Benoît, lui, il a le même logiciel sur son ordi, il voit le code, mais il ne sait pas que je suis en train de faire les changements, et il saura que j'ai fait des changements qu'une fois que j'aurai fait le push de mes changements dans le logiciel. D'accord. Et donc là, c'est pareil, on pourrait lui donner une idée de attention, Nicolas, il est en train de toucher à ce fichier. On peut pas ou on veut pas te dire ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de le faire et donc tant que c'est pas fini, ça sert à rien de te le montrer. Par contre, c'est pas le moment d'aller faire des changements à cet endroit-là. Par exemple. Et encore une fois, il y a eu plein d'idées.
Ça existe sur les SMS quand tu es SK2, mais
avec les
trois petits points d'extension, il est en train d'écrire ou elle est en train d'écrire sur le truc. Ouais.
Et sur les systèmes de visio, moi j'avais fait un système qui permettait de connecter les bureaux de l'ensemble de l'équipe où on pouvait jeter un coup d'œil dans un bureau, donc juste se connecter quelques secondes pour voir si les gens sont dans le bureau ou pas. On pouvait faire des connexions avec ou sans audio. On avait une vue générale qui prenait des photos à intervalles réguliers pour avoir une vue d'ensemble de qui dans l'équipe regarde pas. Et c'est super cool, mais le fait que, même si c'est le bureau d'à côté, vous êtes ici et Benoît il est dans son bureau, et vous voulez savoir si vous pouvez aller le voir pour lui demander un truc, au lieu de faire 12 000 allers-retours pour aller voir, bah non, sa porte est toujours fermée, donc c'est pas la peine, bah non, sa porte est toujours fermée, c'est pas la peine, ah bah tiens, la porte est ouverte, ah oui, mais il est avec Jérôme, il a l'air d'être occupé, donc je reviendrai vraiment un autre moment. Vous restez à votre bureau, de temps en temps, vous jetez un coup d'œil, et puis ça vous donne la même chose que si vous alliez devant la porte pour savoir s'il est là ou pas, mais sans vous déplacer.
Sauf que là, il faut courir. Hein. Dès qu'il y a une fenêtre de possibilité de me rencontrer, ils sont obligés de lâcher leur machine et courir.
Mais moi, quand je développais ça, donc, mon directeur de thèse est parti 2 ans au Danemark. Et à l'époque, j'étais dans un bureau de la fac d'Orsay où j'avais pas le droit au téléphone international. Donc, je devais passer par le standard téléphonique chaque fois que je voulais appeler mon directeur de thèse. Donc, vous imaginez, il est à des centaines de kilomètres. Chaque fois que je veux l'appeler, il faut d'abord que j'appelle quelqu'un pour dire « Est-ce que vous pouvez appeler pour moi un numéro au Danemark ?» Donc autant dire que vous n'avez pas trop envie d'appeler quand il n'est pas là, parce que si vous appelez quand il n'est pas là, bah, vous avez juste parlé à quelqu'un qui a passé un coup de fil pour vous, pour qu'elle vous dise bah, « ça ne décroche pas ». Mais par contre, comme il utilisait mon système, moi j'appelais le standard de la fac, je disais « vous allez appeler tel numéro au Danemark ». Alors elle appelait le numéro, elle me disait « ça sonne, il n'y a personne qui décroche ». Je dis « non, attendez, c'est bon, ça va décrocher, maintenant ». Et parce que je le voyais aller vers le téléphone et décrocher. Et on a fait ça entre bureaux, et puis après, au début des années 2000, on a déployé ce genre de techno chez des gens et chez nous. Ce qui pose tout un tas d'autres questions. Hein, parce que autant mettre des caméras dans nos bureaux, c'était assez facilement acceptable, même si ça pose aussi plein de questions. Par contre, aller mettre des caméras chez des gens, c'est un peu plus compliqué. Mais on l'a fait, chez des familles. On l'avait recruté par petites annonces en Suède et en France.
Alors, on va parler après du futur, mais peut-être que si vous avez des questions déjà, parce qu'on a dit qu'on se fait un truc interactif, mais en fait, on se passe la parole l'un à l'autre. Vous avez des questions ou des interactions? Oui.
Non, c'est juste, vous ne comptiez pas Visual Studio Code dans les éditeurs de texte?
Vas-y.
Vous ne comptiez pas Visual Studio Code dans les éditeurs de texte, parce que Visual Studio Code fait le...
Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est... Visual Studio, il est vraiment pour le... Enfin, c'est l'éditeur de texte pour les codeurs, quoi, si tu veux. Quand tu veux faire un document de texte, c'est pas... Un autre point qui montrait aussi Michel à l'époque, c'était que le undo, en fait, dans un traitement de texte, le problème, c'est qu'il arrête la dernière instruction. Il y a des fois, on a envie d'enlever la 15e qui est avant, mais pas la dernière. Parce que c'est des choses qui n'ont rien à voir, quoi. Vous avez travaillé sur un truc, puis vous revenez sur autre chose. Ah mince, le truc où j'étais là-bas. Et en fait, c'est qu'il suffit d'avoir non pas une pile pour être capable d'avoir d'empiler les actions, mais d'avoir en fait un arbre. C'est aussi bête que ça, quoi. Et c'est les structures informatiques qui existent et qui ne sont toujours pas vraiment implémentées. C'est peut-être trop compliqué d'expliquer aux gens ce que c'est qu'un arbre par rapport à une pile.
Non mais dans les idées faciles à implémenter, une fois à la conférence web, j'ai demandé pourquoi quand vous... Alors peut-être ça ne vous parle plus du tout, ça, ajouter un bookmark dans un navigateur web, je ne sais même pas si ça se fait encore. Moi, je le fais plus trop. Mais dans la plupart des navigateurs, quand vous ajoutez un bookmark, ça ajoute à la fin de la liste. Et donc, à moins que vous fassiez régulièrement le ménage, vous avez une liste de bookmarks phénoménale, et les plus récents que vous avez ajoutés, ils sont tout au fond. Et donc, j'ai demandé, mais pourquoi vous ne mettez pas la liste dans l'autre sens, dans Firefox ? Ça serait tellement plus simple, les plus récents en haut. Donc c'est pas forcément... faire des trucs plus simples à utiliser ou plus efficaces, c'est pas forcément très compliqué, mais là, on retombe sur le point de départ de Benoît, c'est que pour un informaticien, insérer en fin de liste, c'est le truc standard, donc il ne se pose pas de questions, et il ne se pose pas de questions sur le fait que la liste est affichée, qu'elle est déroulante, et que du coup, on se retrouve à faire un truc déroulant 12 000 fois pour aller chercher ce qu'on vient d'ajouter.
D'autres questions ou précisions à ajouter ? Vous êtes trop studieux ou trop affairé sur vos mails ? Je ne sais pas. Alors, prenons un peu de temps maintenant pour regarder le futur. Qu'est-ce que ça va donner ? Donc là aussi, je t'expliquais que le futur tel qu'on le comprend un peu, c'est ce qu'on appelle le HAT, c'est le Human Autonomy Teaming. C'est-à-dire que il va y avoir des gens, il va y avoir des machines, et puis ça va faire un team, tout ça, ça va faire un ensemble. L'ensemble est asymétrique quand même, c'est-à-dire que les humains et les machines ne vont pas forcément jouer le même rôle, quoique. Et ce HAT, c'est ce qui, actuellement, occupe l'essentiel des chercheurs sur les systèmes d'interaction de machines du futur. Alors là-dessus, c'est pareil, j'ai cru comprendre que tu avais des réticences ou des éléments. C'est le team qui te plaisait pas trop, comme terme ?
Non, pas... Enfin, bon, oui, non. Donc, moi, je viens d'une école où... Des bonnes et des mauvaises raisons, on s'était placé dans le camp des gens qui considèrent l'informatique comme un outil, essentiellement. D'accord ? Donc l'autre option pouvant être le partenaire. Donc l'outil, c'est je prends le marteau et je fais quelque chose avec, et puis le partenaire, c'est je demande à Benoît de planter le clou à ma place. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, même avec l'approche outil, ne veut pas dire qu'on se limite à des trucs super simples. Vous voulez tronçonner un arbre, vous êtes content d'avoir une tronçonneuse, d'accord ? Une tronçonneuse, c'est un outil puissant. Et donc du coup, l'idée qu'on va faire un partenariat avec des machines, bon, moi, c'est pas mon truc au départ. Après, je l'ai dit aussi au début, le fait est que de plus en plus, on est entouré de bidules qui sont apprenants autonomes. Donc, c'est quoi autonome pour moi ? Autonome, c'est capable de décider de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez faire, de quand vous allez faire, capable de se débrouiller, on pourrait dire. D'accord ? Donc, et donc, quand vous demandez à un ami est-ce que tu peux aller m'acheter du pain, vous vous foutez de savoir où il va l'acheter, vous vous foutez de savoir si ça va être une baguette très cuite ou pas cuite, du moment que la personne revient avec une baguette, vous êtes content. Et donc, c'est dans ce sens-là que la personne peut décider elle-même où elle va, est-ce qu'elle achète le pain, si elle veut faire 20 km ou 30, c'est pas votre problème. Donc, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, quand je le fais ? Pour moi, c'est trois bons critères pour dire si. Enfin, si vous commencez à pouvoir faire un de ces trois trucs-là, c'est que vous commencez à être autonome. Et puis, apprenant, c'est juste qu'à partir d'expériences, vous améliorez votre performance, on va dire, ou votre relation à l'environnement. Donc, vous faites un truc une fois, c'est pas terrible, vous faites une deuxième fois, c'est mieux. Voilà, vous avez appris. Et donc, effectivement, on est entouré maintenant de services ou d'objets qui savent apprendre et puis qui ont, pour certains, un certain degré d'autonomie. Et là, ce que ça pose comme question, c'est que déjà concevoir des trucs qui ne sont pas apprenants et autonomes, c'est déjà pas forcément facile. Mais concevoir des systèmes qui sont apprenants et autonomes et qui vont être en interaction avec des humains, c'est encore plus compliqué, parce que l'humain, lui, ça ne va pas être facile pour lui ou elle de savoir ce que le bidule a appris, et donc ça ne va pas être facile de comprendre pourquoi aujourd'hui il ne se comporte pas de la même manière qu'il y a une semaine, parce qu'entre-temps il a appris des choses, par exemple. Et puis si le bidule a une certaine autonomie, c'est pas non plus forcément facile de comprendre, tiens, pourquoi ma batterie est à plat alors que je n'ai pas touché mon téléphone aujourd'hui. Ah bah, il est à plat parce que mon téléphone a passé la journée à faire des mises à jour alors que je ne vais rien demander. Et donc tout ça rajoute de la complexité à l'interaction qu'on a avec ces dispositifs.
Alors c'est vrai que cette notion d'outil ou d'autonomie, enfin la notion d'autonomie ou d'automate, en fait, c'est vrai qu'elle fait apparaître des choses différentes sur la prise de décision, sur la discussion, la collaboration qu'on peut avoir. Alors je vais juste renforcer un peu le trait sur ce que tu as dit. Une voiture autonome, par exemple, ça peut être un super outil, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait partie de votre team. C'est-à-dire que, soit vous considérez, ça c'est assez... Il y a les attentes des gens. Quand vous discutez avec des gens dans la rue, ou même votre famille, enfin, ou vous-même peut-être,
sur le véhicule autonome, on attend de quoi? On est en attente d'avoir un véhicule prêt quand vous en avez besoin, et finalement qui ne vous donne pas tous les désavantages qu'il peut y avoir, c'est aller se garer, aller faire le plein, aller tout ça. En fait, ce que vous attendez, c'est un véhicule avec chauffeur. Et donc, si vous attendez avec un véhicule avec chauffeur, vous dites, voilà, tiens, on va à la maison, on fait ceci, enfin, vous donnez quelques macros ordres, et la machine va se débrouiller pour faire tout ça, on est dans le timing. Par contre, la réalité, elle n'est pas là du tout encore. La réalité, elle est peut-être arrivée à avoir un véhicule autonome, c'est-à-dire un véhicule sur lequel vous le pilotez sur la partie stratégique, ou la partie que vous voulez avoir, quoi, peut-être même la partie tactique, mais que la partie opérationnelle, elle soit complètement autonome sur aussi. Et de l'autonomie dans le côté opérationnel, c'est un super outil, sans être un partenaire. Et donc, si on va vers là, c'est-à-dire vers une voiture où vous la programmez, si tous les jours, vous allez à la maison en quittant le bureau, ben, tous les jours, il faudra dire à la machine, je vais à la maison. Voilà. Et donc là, on n'est pas dans un timing, on est dans un super outil. C'est peut-être frustrant, mais au moins, ça vous permettra déjà de lire le journal ou de faire autre chose pendant que vous roulez. Passer au timing, ça veut dire que vous rentrez dans la voiture et la voiture vous propose déjà d'aller à la maison. Vous voyez, donc on est sur un mode qui est un petit peu différent. Donc on peut tout à fait imaginer qu'on aura des super outils sans que ces outils-là deviennent des collaborateurs.
Ouais, alors moi, il ne faut pas me lancer sur le véhicule autonome. ça fait 6 ans que je dis que j'y crois pas. Et au début, les gens me disaient « Ah, mais non, mais t'es contre la techno, et puis t'es négatif, et t'es pessimiste. » Mais bon, 6 ans après, j'observe juste qu'il n'y en a toujours pas. Alors, mais moi, je voudrais faire un truc en 3 temps. Donc, un véhicule autonome, puis après, j'en ai 2 autres. Donc, pourquoi je dis que j'y crois pas au véhicule autonome? Parce que d'abord, je pense que c'est super difficile à faire. Un vrai véhicule autonome, une voiture, enfin un machin qui vous transporte et qui est capable de se débrouiller, comme j'ai dit, dans toutes les situations, je pense que c'est extrêmement difficile à faire. Et donc, si on y arrive, ça va prendre assez longtemps.
Mais toujours dans le côté opérationnel, pas dans le côté stratégique, on est d'accord?
Oui.
Tu penses qu'un véhicule autonome, c'est un truc où tu ne touches pas les pédales ni
exactement
le volant?
Exactement. Voilà. Parce que le côté stratégique, c'est Waze. Tu lui dis, je pars de chez moi, je vais au bureau, il te dit, tu arrives dans 22 minutes, et en fait, effectivement, tu arrives dans 22 minutes.
Oui, mais le côté stratégique avec apprentissage, s'il sait que tous les jours à cette heure-là, ou bien dans ton emploi du temps, tu as un truc, c'est ça qui est encore plus. Le chauffeur, il le sait, ça. Le chauffeur, quand tu montes dans la voiture, il sait où tu vas.
Mais ça, ouais, il le fait très bien. Hein.
Ah, t'as pas de chauffeur, peut-être, toi?
Non, j'ai pas de chauffeur. Non. Nous, on réduit les dépenses. L'argent public. Blague à part. Quand je pars le matin de chez moi, Waze me dit, tiens, tu vas au travail. Il me le dit que les jours de semaine. Donc, il a très bien compris où je vais, enfin, d'où je pars, où je vais, sans problème. Donc, c'est pas ça. Mais donc, d'abord, faire un véhicule qui conduit tout seul, je pense que c'est super dur. Mais surtout, la question que je pose, c'est mais pourquoi vous voulez des véhicules autonomes? Parce que si la réponse, c'est parce que je ne veux pas conduire, d'accord, mais pourquoi vous ne voulez pas conduire? Souvent, la réponse derrière, c'est mais je ne veux pas conduire parce que tu as vu le temps que je mets le matin, tu as vu la gueule de la rocade, je perds mon temps. Je préférerais faire autre chose. Ok, donc le problème, c'est pas que tu ne veux pas conduire, le problème, c'est qu'il y a trop de monde sur la rocade. Et il me semble que le problème qu'on a avec les voitures, c'est pas qu'elles conduisent pas toutes seules, c'est qu'il y en a trop et elles polluent trop. Et faire des voitures qui conduisent toutes seules, ça va pas diminuer le nombre et ça va pas faire moins de pollution. Donc j'ai l'impression qu'en essayant de faire des véhicules autonomes, on essaye juste de faire un truc qui est super dur à faire et qui surtout résout pas les vrais problèmes qu'on a avec les voitures, qui sont il y en a trop, elles polluent trop. Et donc ce qui m'amène à un autre sujet. Donc le deuxième sujet, c'est un peu une aparté, mais parce qu'on m'a un peu interrogé là-dessus il n'y a pas longtemps, j'avais discuté avec différentes personnes, donc je serais curieux d'avoir votre avis. Vous avez entendu parler du métaverse. Et alors vous en pensez quoi? D'abord, c'est quoi pour vous, et vous en pensez quoi?
Vas-y.
On va couper la question en deux. Oui.
C'est une sorte de réalité virtuelle, on reproduit les interactions qui se passent dans la réalité. Ouais. Par exemple, une réunion au bureau, ça permettrait de voir en réalité virtuelle les autres participants de la réunion. Et il y a plus ou moins un système financier qui est incorporé à cet univers numérique.
Moi, c'est comme ça que je le comprends aussi. Ah non, mais je le comprends comme ça aussi. Et il y en a parmi vous qui jouent ou qui ont joué à Fortnite ou à GTA ou à d'autres machins un peu comme ça?
Oui.
vidéo. Ne dites pas non, je ne vous croirai pas. Et donc, ça, vous n'avez pas l'impression que le métavers tel qu'il est présenté, c'est une sorte de croisement entre Fortnite et Facebook ou un autre truc, c'est-à-dire quelque chose qui serait à la fois, qui reprendrait à la fois un certain nombre d'éléments qu'on trouve dans des jeux vidéo massivement en ligne, mais avec une dimension plus réseau social ou réseau professionnel. Non, c'est pas ça pour vous. Alors, je pose la question parce que moi, mon sentiment, mais j'ai pas beaucoup réfléchi, hein, donc c'est en exclu. De la même manière qu'il y a 6 ans, j'ai dit les véhicules autonomes, j'y crois pas. Le métaverse, j'y crois pas. Mais j'y crois pas parce que là aussi, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on veut faire qui va être extrêmement compliqué si on veut atteindre le niveau de ce qui est présenté dans certaines vidéos. Donc extrêmement compliqué et où ça va nécessiter des moyens importants, donc des casques, de la fibre optique, de je ne sais quoi. Et je ne sais pas dire ce que ça va apporter. Et je ne sais pas dire ce que ça va apporter. Et mon troisième point, c'était la transition, ou pour le dire façon Engelbart, les problèmes urgents et complexes auxquels on est confronté. Donc si je regarde les véhicules autonomes, le métavers ou d'autres trucs, franchement, la question que je me pose, c'est mais c'est vraiment de ça qu'on a besoin là, en ce moment? Quand on voit le Covid, quand on voit les rapports du GIEC, quand on voit je sais pas quoi, vous êtes sûr que c'est ça là, le meilleur usage qu'on peut faire du numérique, c'est faire un métavers et faire des véhicules autonomes?
Sur ce point-là, j'ai un petit élément de réponse. Alors c'était des recherches qu'on fait en sciences humaines avec toute l'équipe d'Hermès, la revue scientifique du CNRS. Et en fait, sur lequel, en discutant de fil en aiguille sur les différents termes autour de la communication, la connaissance, l'information, la société, toutes ces choses-là, on a essayé d'identifier un peu ce que les GAFA pouvaient représenter en tant que société. Et en fait, les quatre termes qu'on travaille dans cette revue Hermès, c'est effectivement l'information, la connaissance, la culture et la communication. Et en mettant tout ça ensemble, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, les GAFA sont les quatre champions de ces quatre termes-là. C'est-à-dire que les quatre termes qui interviennent dans la communication, c'est une histoire d'information, de culture, de connaissance et de communication. Les quatre à la fois. Je les reprends un peu dans tous les sens. Et en fait, si vous regardez bien, j'ai pour Google, en fait, il vous donne des connaissances. C'est-à-dire qu'il vous donne, il vous transforme l'information en connaissance grâce à son super moteur de recherche. OK. Apple, c'est un outil qui travaille sur l'information. C'est un outil informatique. On est vraiment sur des appareils qui traitent de l'information. Donc on a déjà les deux premiers termes, connaissance et information. Facebook, c'est quelque chose qui travaille sur la communication, puisque c'est quelque chose qui vous donne un coopératif ou quelque chose comme ça. Et Amazon, c'est celui qui s'est fait sur les livres, les disques, etc., donc sur la culture. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant, les quatre termes qu'on trouve forts sur la communication, c'est là que les quatre champions sont arrivés. Pour poursuivre un peu plus la réflexion, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vous vendent vraiment, ces quatre entreprises-là? Alors, je recommence. Google, il vous vend quelque chose qui est une capacité, dans une botte de foin, de trouver les aiguilles ou de trouver quelques aiguilles possibles. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée, au sens où, sans Google, vous avez du mal à vous en sortir. Apple vous offre quelque chose qui sont des appareils qui, en général, vous les remettez au placard parce que, non pas ils sont en panne, mais parce que, finalement, ils ne peuvent plus supporter les nouveaux systèmes mis à jour. C'est pas rare d'avoir des gens qui ont des téléphones qui ont 10 ans ou des ordinateurs qui ont 10 ans avec des Apple, par exemple. Donc on a vraiment des outils qui ont une valeur perfectionnée. Amazon, il vous amène le dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'il vous amène la facilité d'avoir le truc qui est dans votre boîte aux lettres, alors que sinon il faut aller le chercher quelque part, etc. Et donc il y a une vraie valeur ajoutée aussi. Et j'avais coutume de dire que Facebook, qu'est-ce qu'il vous amène? Et là, c'était un grand blanc en général. C'est-à-dire que Facebook ne vous amène que de la publicité et que des éléments comme ça. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a fait une réponse un peu plus intelligente que j'ai pu avoir, c'est qu'il vous amène de la sociabilisation, c'est qu'il vous amène des rapports sociaux. Et c'est vraiment quelque chose que, pour certaines personnes, alors c'est compliqué pour nous, on voit des gens à longueur de journée, on n'a pas besoin, enfin, je ne sais pas si c'est une page Facebook, mais on n'a pas besoin de page Facebook pour avoir des amis, si vous voulez. Enfin, on vous voit, on a des centaines de personnes par jour, ne serait-ce quand on est enseignant avec vous, par exemple, pour avoir de l'interaction, d'avoir des regards qui vous questionnent, d'avoir des discussions. Et donc finalement, on n'a pas vraiment besoin de rajouter des gens qui sont des... pas des faux amis, mais des gens qui ne sont pas forcément sur place ou qui sont ailleurs, on n'a pas besoin forcément de ça. Donc c'est vrai que je n'ai pas vu la chose de ce côté-là. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui finalement ont un environnement social parce que leur boulot n'est pas sympa, parce que je ne sais pas, il y a des choses qui se passent, et qui retrouvent dans Facebook cette sociabilisation. Eh bien le métavers, c'est ça que ça va leur amener. Ça va leur amener un univers virtuel de copinage et de communication.
Oui, mais avec une énorme artillerie.
Ah oui, non, mais est-ce que ça sera...
Enfin, avec une énorme artillerie et comme je disais, qu'il faut qu'on fabrique au moment où on a peut-être d'autres sujets sur lesquels ça vaudrait le coup de se mobiliser. Mmh. Mais après, sur Facebook et autres, j'ai un point de vue un peu différent parce que moi, j'ai beaucoup bougé, j'ai habité dans différents pays et donc ce que je gagne avec un truc comme Facebook ou LinkedIn, ben, c'est juste la capacité de rester en contact avec des gens que je ne croise pas. Je ne peux pas les croiser. Des gens qui vivent, je ne sais pas où, en Allemagne, en Suisse, au Danemark, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, je ne les croiserai jamais, ces gens-là. Et si on regarde comment faisaient les gens avant, mon père, il a un gros bouquin dans lequel il a plein de noms avec des numéros de téléphone en face. Quand vous voyez le nom de numéro qu'il y a dans les numéros de téléphone, vous dites que de toute façon, ça date d'une époque où on a changé de système téléphonique trois fois depuis. Et puis les gens ont dû déménager, etc. Donc, ouais, peut-être que dans quelques années, quand on sera à la retraite, on sera content de pouvoir retrouver des gens qu'on croise plus, mais avec lesquels on a réussi à garder contact. Donc,
Tu veux pas faire une sortie en forêt avec ton Brésilien, ton Polonais et le Tchèque, ou je sais pas.
Mais de la même manière que quand je travaillais sur les systèmes de visio, donc en 2016, j'ai dit les véhicules autonomes, ça ne marchera pas. Donc là, aujourd'hui, je vous dis le métavers, ça ne marchera pas. En 2000, quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai dit les systèmes de visioconférence ne marcheront pas au point où certains espèrent que ça ne marchera, au sens où personne ne sera prêt à payer pour. Et surtout, parce qu'à l'époque, en 2000, vous aviez des pubs pour essayer de fourguer la 3G, à l'époque, je crois, qui montraient des gens qui allaient regarder des matchs de foot sur des téléphones... un peu partout. Alors, ça se fait un peu aujourd'hui, mais disons que pour regarder un match de foot, si vous pouvez le faire autrement qu'en regardant sur votre téléphone, vous le faites autrement. Quand vous commandez une pizza, vous en foutez de voir le gars à qui vous commandez votre pizza. Mais même quand vous appelez votre mère ou votre père, vous n'avez pas envie de les voir. Bon, je suis sûr. Ok, ne mentez pas. Je suis à la fois fils et père. Okay. Donc, quand je parle à mes parents, j'ai pas envie de les voir. Et pourquoi j'ai pas envie de les voir? Mais parce que je fais autre chose quand je les appelle. D'accord. Et c'est pareil, quand mes enfants m'appellent, je sais bien qu'ils font autre chose. Et donc il y a plein de situations où les gens fantasmaient que ça sera génial quand on pourra faire de la visioconférence, on mettra de la visio partout. Et à l'arrivée, mais non, en fait, c'est la visio est très utile pour certains trucs, et puis elle sert juste à rien pour plein d'autres choses. Et le métaverse, je pense que c'est pareil, ça sera peut-être très utile pour quelques trucs. Mais j'ai du mal à croire que plein de gens vont passer leur vie dedans, à moins que le seul scénario, mais franchement je ne le souhaite pas, le seul scénario c'est que, comme dans certains films, la vraie vie soit devenue tellement pénible pour plein de raisons, parce qu'il fait 72 degrés dehors, ou à l'inverse parce qu'il fait moins 20 et qu'on est entouré de tempêtes, ou parce que je ne sais pas quoi, on a le 40e, le Covid 32, on n'en est toujours pas sorti et c'est les variants de plus en plus difficiles. Et donc oui, effectivement, si le monde réel est devenu tellement terrible que, en fait, la seule façon d'avoir une vie agréable, c'est de la vivre par proxy dans un monde virtuel, bon, dans ce cas-là, le métavers sera peut-être utile, mais j'espère bien qu'on n'en arrivera pas là.
Oui, oui, justement, deux choses. Si il y a à ce moment-là, c'est déjà pas ça, dans un monde virtuel, à ce moment-là, il n'y aura pas d'intérêt à essayer d'améliorer le monde réel. Et autre chose, c'est on est déjà dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie surtout de façon virtuelle, avec des amis qui sont à droite à gauche. Bon, ça peut être bien, mais du coup, ça enferme dans un monde virtuel. Et enfin, un monde qui dépend des technologies qu'on ne possède pas aussi, dont le fonctionnement ne dépend pas de nous. Et le métaverse, ça exacerbe ça, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, si on aurait une situation de métaverse, à ce moment-là, c'est Facebook qui décide de tout ce qui se passe. Et c'est un problème.
Mais c'est ça le problème. Enfin, le problème, c'est rester maître de son destin. Donc, c'est ne pas se faire imposer des choses qu'on n'a pas choisies ou qu'on ne choisirait pas. Et l'enfermement, il peut y avoir de l'enfermement dans des réseaux sociaux, dans des métaverses, ou dans je sais pas quoi, mais il existe aussi dans la vraie vie. Moi, j'habite dans un village où il y a la mairie, l'école et une église désaffectée, et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. Et donc, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de bus, il n'y a que dalle. Donc, je suis heureux que mes enfants ne vivent pas avec moi aujourd'hui, parce que s'ils vivaient avec moi, ils passeraient leur temps à me demander désormais d'être à l'endroit, parce que juste, il n'y a rien autour de là où j'habite. Et donc, il y a quand même, et je ne suis sans doute pas le seul dans cette situation, il y a quand même plein de gens qui habitent dans des coins où il n'y a pas grand-chose. Donc on peut se retrouver enfermé dans sa bulle à croiser tout le temps les mêmes gens et à pas voir grand-chose sans numérique aussi.
Mais le numérique, alors tu parlais des visioconférences là, toujours dans les anecdotes individuelles, enfin personnelles. Il y a un an, j'ai pris la présidence de la FIA, qui est donc l'association française des chercheurs en IA, et ça m'a amené, ça nous a amené à quelques péripéties au cours de l'année 2021 avec Nicolas. Mais il y a un conseil d'administration de cette association, dont je connais plusieurs personnes. Je les ai vus toute l'année, en fait, 2021, en visio, et on a fait une première réunion physique, en fait, en octobre. Donc ça faisait 10 mois que je connaissais ces gens-là, si vous voulez, mais je les ai jamais vus. Donc je connaissais leur voix, je connaissais la façon dont ils se comportent, dont ils s'habillent, s'ils sont extravertis, introvertis, enfin, comment en réunion ils sont, tout à fait. Mais je les ai jamais vus en physique, quoi. Et je pensais avoir une compréhension des gens réelle, parce que je les avais vus, franchement, c'est des amis sympathiques, on se voit, on s'appelle de temps en temps, etc. Voilà. Et la première fois que je les ai vus en physique, je me suis rendu compte de ce qui me manquait. Ce qui me manquait, c'était l'échelle. Je ne savais pas quelle taille il faisait. Et ça, ça change tout. Parce que dans la relation sociale, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fonction que les gens sont plus petits ou plus grands que vous, mais finalement, vous n'avez pas les mêmes apports, les mêmes... Alors, est-ce que c'est biologique, intuitif? J'en sais rien. Mais là, je m'en suis rendu compte, ça a été flagrant, si vous voulez. C'est-à-dire que ce facteur d'échelle qui n'existe pas quand on a des vignettes individuelles, on est confronté à la réalité. Et donc, ça a réévoqué, bien sûr, mon credo, moi, sur l'informatique et sur tout le numérique. C'est qu'en fait, tout ce qui est numérique reste du domaine de la syntaxe, reste du domaine de l'agencement des choses, etc. Mais tout ce qui est sémantique, tout ce qui provoque cette émotion ou cet élément qui est holistique, qui est général, est complètement absent de ces éléments numériques. Et donc, le métavers ou les autres éléments qui vont arriver ne vont pas être capables de reprovoquer ces éléments d'émotion ou ces éléments de... Alors, ça va provoquer des émotions, attention, ne faites pas dire ce que je dis pas, mais c'est des émotions différentes, c'est pas les émotions de la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que comment vous allez avoir le sentiment du vent qui passe, ou le... Vous voyez, enfin, tous ces éléments qui sont dans la vraie vie, ça va être quelque chose qui va être aseptisé, peut-être, ou qui va être... quand on est sur un jeu vidéo, on éprouve des émotions, mais c'est pas les émotions de la vraie vie, c'est pas la même chose. Et alors, ce qui risque de se passer, c'est, dans les échanges entre les gens, ce sont des quiproquos ou des éléments qui vont être... C'est-à-dire qu'en fait, comme les éléments sont trop pauvres en termes de sémantique dans les échanges qu'on peut avoir, ça peut être mal interprété et il n'y a pas d'éléments de réajustement derrière. J'ai aussi de souvenir des... on parlait là des éléments, qui, enfin des personnes avec qui on maintient des contacts ou des choses comme ça, tu vois. Moi, mes filles, quand elles étaient plus jeunes, elles avaient des BFF, alors je ne sais pas si vous en avez vu aussi, ou des BFT. Maintenant, c'est les BFT. C'est les Best Friends Facebook ou les Best Friends Twitter. Donc ça correspond aux gens avec qui on passe le maximum de temps sur Facebook et sur Twitter, mais sûr qu'ils ne sont jamais là, quoi. Et ma fille, à 10 ans, elle a invité sa best friend Twitter. Alors en fait, c'était trop drôle, quoi, comme situation. C'est comment... vous en avez peut-être eu aussi, donc c'est peut-être arrivé chez vous aussi, mais comment un environnement complètement numérique et artificiel a percuté la réalité. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait 10 ans, donc vous imaginez, l'envoyer à 10 ans dans un endroit où on ne sait pas où c'est, ou bien recevoir à 10 ans quelqu'un, c'était très compliqué pour les parents. Donc on a dit...
C'est 13 ans.
Alors c'était peut-être 12 ans, ou je sais pas, enfin, t'as raison, mais bon. Non, t'as raison, elle avait plus de 12 ans, parce que de toute façon, c'est pas dit. Enfin bon, ça change pas la donne du problème. De toute façon, quand on est père, sa fille, jusqu'à 23 ans, en général, on ne laisse pas sortir comme ça, quoi. Et donc... Il a fallu, si vous voulez, s'accorder avec les parents qui étaient là. Et donc on a dit, bah, écoute, donne-nous le numéro de téléphone, ok, alors ça finit, bon, le numéro de téléphone, ben, on va les appeler. Et ma fille dit, non, pas maintenant, ils sont à table. Bon, ben, on va attendre, mais écoute, tu vas me dire quand est-ce qu'on peut les appeler. Et ce côté hyper artificiel d'appeler des gens qui n'ont aucune information sur vous, et vous sur eux, bien sûr, avec des enfants qui se connaissent tellement qu'ils ont tout préparé le truc. Et encore une fois, il a fallu faire en sorte, si vous voulez, que les enfants se rencontrent. Et ce facteur d'échelle a encore été très percutant, parce que je ne m'étais pas rendu compte que les deux filles, entre ma fille et l'autre fille, avaient une différence de taille tellement grande que finalement, elles ne s'y attendaient pas non plus, tu vois, ce truc-là. Et donc, on peut maintenir des choses artificielles avec des gens qu'on a connus ou qu'on connaîtra, mais il y a forcément un moment où ce truc-là doit être une réalité.
Ouais, mais alors, pour arrêter de raconter la vie de nos enfants et revenir sur des trucs peut-être plus dans l'esprit de ce qu'on discutait tout au début, parce que tu dis artificiel, mais c'est comme à une époque, quand Kinect est sorti, c'était le moment où les gens, donc je vous ai dit, j'ai travaillé sur l'interaction tactile et gestuelle, donc des trucs qu'on touche, des trucs qu'on tient, des gestes devant des caméras. Et c'était le moment où on disait, ah, avec Kinect, vous allez avoir une interaction plus naturelle et plus intuitive. Et donc, ça me fait penser à ça, parce que artificiel, c'est par rapport à quelque chose qu'on connaît déjà. Il est plus naturel, plus intuitif, c'est par rapport à quelque chose qu'on connaît déjà. En fait, ça n'existe pas, naturel, intuitif, et c'est juste déjà appris ou facile à apprendre. Et parce que à la base, hein, à la naissance, tout ce que vous savez faire, c'est à peu près crier et pas grand-chose d'autre, hein, au départ. Et après, vous apprenez à courir et à manger et à chasser et à cueillir éventuellement, et puis à pêcher peut-être. Et puis à force d'apprendre à faire des trucs, vous savez construire des bâtiments, faire des véhicules autonomes. Et autres. Mais au départ, on sait faire à peu près rien. Et donc il n'y a pas grand-chose, enfin, dire que quelque chose est naturel ou intuitif, ça n'a pas de sens, c'est déjà appris ou facile à apprendre. Et là, artificiel, je pense, on peut juste dire que c'est différent des conventions dans lesquelles on vit, et encore, des conventions dans lesquelles on vit depuis peut-être pas si longtemps que ça. Parce qu'à l'époque où en France, il y avait encore des mariages arrangés, il y a plein de gens qui se découvraient la veille du mariage, et qui tout d'un coup découvraient que leur future femme ou mari faisait 50 cm de plus, et ils s'en étaient... Et ils n'avaient même pas de visio pour pouvoir voir à quoi ils allaient ressembler avant, quoi. D'accord. Donc, et c'est pareil quand on dit dans le monde numérique, dans des trucs type métaverse ou quoi, on va perdre tout un tas de machins qu'on avait. Mais bah, oui et non, parce que quand on passe beaucoup de temps à jouer à Call of Duty ou je sais pas quoi, Fortnite, GTA machin, on finit par développer tout un tas de codes avec des gens qu'on n'a jamais vus. Et bon, les codes sont pas les mêmes que dans la vraie vie, mais il existe aussi des codes.
Oui, mais c'est, enfin, ce que je disais surtout, c'est que le numérique gomme le côté sémantique, le côté sens. On le voit, enfin, tu disais tes enfants te téléphonent peut-être un petit peu, t'as de la chance, parce que...
Non,
c'est ça, d'accord. En fait, cette génération, hein, c'est vous là, vraiment, c'est une génération qui veut travailler dans l'asynchrone, enfin travailler, communique dans l'asynchrone, mais comme si c'était du synchrone. Alors là aussi, t'as des expressions, c'est... ma fille m'a sorti ça l'autre jour, elle était là, « Machin, il m'a mis un vu. » Alors j'étais là... Il faut arriver à comprendre ce que ça veut dire. Évidemment, vous avez compris tout de suite. Moi, je t'ai expliqué, si tu vois pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, le message a été vu et a été lu, quoi. Mais il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Mais c'est normal. Si c'est asynchrone, on n'attend pas d'avoir une réponse immédiate. Voyez. Et pourtant, ce mode de fonctionnement où vous utilisez à longueur de temps des outils asynchrones comme s'ils étaient synchrones, eh bien là, vous segmentez les choses. Et vous avez une partie de perte de la sens et de la signification. Et ça, c'est quelque chose qui... On ne peut pas refaire... Enfin, un outil synchrone, comme le téléphone, n'est pas une somme de petits outils asynchrones. Il y a un truc de plus.
Oui, mais par contre, ce qui est marrant, c'est... je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous envoyez un SMS, mais a priori, vous n'envoyez pas beaucoup de SMS. Mais si vous envoyez un SMS, il n'y a aucune garantie qu'il arrive. Déjà, il n'y a pas de garantie qu'il arrive tout de suite, mais il n'y a même aucune garantie qu'il arrive. Mais le fait est qu'à chaque fois qu'on envoie un SMS, il arrive, quasiment tout le temps, et en plus, en général, il arrive tout de suite. Mais tel que le système est conçu, c'est pas garanti. Et donc, on peut se retrouver dans des situations où on envoie un SMS à la personne d'à côté, et elle le reçoit le lendemain, si elle le reçoit. Et donc, c'est ça qui est rigolo avec...
Ça, c'est vrai au Nouvel An, en plus. Parce que oui, le Nouvel An, tout est saturé, et en général, on reçoit avec plusieurs heures d'écart les messages.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un tas d'outils comme ça qui ont été développés en s'appuyant sur des technos qui n'offrent pas certaines garanties, mais où dans la pratique quotidienne de ces technos, on observe les garanties et on finit par croire qu'elles sont garanties. Et c'est pareil, il y a une expérience que vous pouvez faire qui est assez intéressante des fois, c'est vous mettez en mode avion et vous essayez de lancer toutes les applis de votre smartphone une par une. Et il n'y a pas si longtemps que ça, moi, quand je faisais ça, la moitié au moins des applis ne se lançaient pas. Non, parce que, en fait, la plupart des applis commencent par aller interroger plein de trucs dans la nature pour vérifier qu'il n'y a pas une mise à jour, qu'il n'y a pas je sais pas quoi, etc. Et quand l'appli n'est pas faite comme il faut, ben la tentative de connexion est bloquante, et puis il n'y a pas forcément grand-chose de prévu si jamais ça échoue. Mais forcément, si vous utilisez votre téléphone sans jamais couper le réseau, et ou que quand vous coupez le réseau, c'est parce que vous êtes dans un avion qu'on vous a dit qu'il fallait le couper, qu'il ne fallait pas utiliser, donc vous n'utilisez rien, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on apprenne, parce que moi, j'ai une vision un peu pessimiste hein, du futur, je ne vous cache pas.
On n'est pas vu.
quand je vous dis qu'on va avoir des problèmes urgents et complexes à résoudre, en fait, c'est pas ça. C'est tout un tas de changements qui, peut-être, normalement, auraient pris des millénaires ou des millions d'années, et donc vous n'en seriez pas rendu compte. Ben là, tout d'un coup, il y a une accélération. Donc, moi, j'habite à un endroit où, avant, dans mon jardin, la Garonne coulait, d'accord, c'est plein de sable dans mon jardin. Et elle n'y est plus, mais peut-être elle va revenir avant ma mort dans mon jardin, la Garonne. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se prépare à ça, et le numérique, c'est un bon outil pour se préparer à ça, mais c'est parce que de toute façon, qu'on s'y prépare ou qu'on ne s'y prépare pas, il risque de se passer des choses qui vont un peu endommager toute notre infrastructure, donc les télécommunications notamment. Et donc, on pourrait très bien se retrouver demain dans une situation où aujourd'hui, chez vous, vous captez super bien la 4G, et puis peut-être demain, parce qu'il s'est passé un truc qu'on n'espère pas, vous n'avez plus de 4G, vous n'avez que de l'edge, ou voire vous n'avez plus rien du tout. Et donc, quand je disais le numérique, c'est un outil puissant, c'est. Je pense que, enfin, j'espère que vous, votre génération, parce que nous, on est sur la descente, que vous arriverez justement à vous emparer de ces technos pour en faire des trucs qui vont vous aider, nous aider à traverser ces périodes qui arrivent là et dont, a priori, quand même de grandes chances qu'elles ne soient pas toujours très roses.
Et c'est sur ces notes optimistes. Non, enfin, vous avez compris, cette discussion qu'on a avec Nicolas, là, sur les machines, les interactions, ou le futur, etc., de ce que les machines peuvent devenir, on peut les avoir parce qu'effectivement, on a une culture informatique. Donc, on a une culture du numérique, au sens où une donnée, bon, on sait ce que c'est, quoi, par rapport à comment il faut la manipuler, toutes ces structures-là. Enfin, on a programmé beaucoup de choses. Et donc, forcément, on a une approche qui est une approche de ces outils numériques avec quelque chose qui est l'approche de l'informaticien. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors, je ne parle pas pour vous, hein, je parle des gens dans la rue, parce que vous avez tous eu des cours d'informatique, ne serait-ce qu'au début de la première année, là, quand vous avez redémarré un peu les premiers cours de programmation et tout ça, sont vraiment des cours d'informatique où on reprend la logique, enfin des choses... Les trucs de base qui sont les éléments de culture d'informaticien. Mais ça, effectivement, vous devez comprendre que tout le monde n'a pas ça. Et vous-même, des fois, vous pestez. Moi, ça m'arrive en sachant comment ça fonctionne, ou même les branchements de ces machins, on sait comment ça fonctionne. Mais franchement, on n'a pas envie de s'en occuper pour l'instant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des états d'esprit dans lesquels on est un peu différent. Donc voilà, vous aurez compris qu'en fait, cette discussion qu'on a eue, c'était pour essayer d'éclaircir un petit peu les choses. On partage quand même pas mal d'éléments, à la fois de culture, d'approche de ces choses-là, puis je pense que la seule point de divergence qu'on va avoir, c'est sur le futur, finalement. Parce que moi, je suis peut-être beaucoup plus optimiste que toi sur le futur qui va arriver, mais sur le reste, on est... Est-ce que vous voulez interagir sur quelques questions ou éléments de précision supplémentaires ?
Juste vu.
On s'est mis un vu, quoi, c'est tout.
Entendu.
Bon. Oui.
Première chose, est-ce que vous pensez que, quand on est dans un nouvel âge de l'information, est-ce que vous pensez que c'est pas qu'il y a plus de problèmes, mais qu'on entend plus parler ?
Alors ça, c'est une super bonne question. C'est une super bonne question.
Tu peux peut-être la répéter, je suis pas sûr.
Oui, la question, c'est est-ce qu'il y a plus de problèmes ? Enfin, je reformule peut-être, mais est-ce qu'il y a plus de problèmes ou est-ce juste qu'on est plus conscient de tout un tas de problèmes qui existaient déjà et qu'on ne voyait pas forcément ? C'est une très bonne question parce que c'est notamment une question qu'on peut se poser quand on voit des gens qui s'expriment assez violemment sur certains réseaux sociaux, type Twitter par exemple. Twitter, c'est le truc sur lequel tout le monde aime bien taper. Moi, c'est pareil, j'ai un regard qui est par contre plutôt positif sur Twitter. Ce que j'aime beaucoup dans Twitter, c'est que vous voyez quand même essentiellement que des gens que vous avez choisi de suivre. Et puis vous pouvez bloquer des gens aussi. Donc par opposition à d'autres réseaux sociaux où on vous pousse tout un tas de trucs que vous n'avez rien pas demandé, Twitter vous pousse quand même essentiellement des choses que vous avez choisi de suivre. Mais pour autant, même quand vous avez choisi et que vous choisissez des gens dont vous pensez être raisonnables, on voit quand même des fois des vagues de trucs assez rudes. Et donc on peut se demander si c'est... est-ce que c'est les gens sont de plus en plus agressifs ou est-ce que c'est juste j'entends beaucoup plus de gens que je n'entendais avant quand Twitter n'existait pas et donc du coup j'entends beaucoup plus de gens agressifs. Donc tu vois, pour moi c'est un parallèle avec ton histoire de est-ce qu'il y a plus de problèmes ou est-ce qu'il y a autant de problèmes qu'avant mais je les vois plus. Alors je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais par contre le fait que les choses soient visibles, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient anciennes et que juste avant on ne les voyait pas, bah peut-être ça fait qu'on devrait s'y intéresser et qu'on devrait peut-être essayer de les résoudre. Parce que je pense pas que la solution... Parce que si ce qui se passe, c'est que juste on voit plus ce qui existait déjà avant, je pense pas que la vie soit plus heureuse en remettant sous le tapis tous ces trucs qui existaient déjà avant et en faisant comme si on les avait pas vus. Donc au final, je suis pas sûr que ça change grand-chose, que ça soit des nouveaux problèmes ou des problèmes qui existaient déjà avant mais qu'on voyait pas. C'est des problèmes, en fait.
Alors c'est un peu à côté, mais est-ce que vous pensez aussi que Twitter, des sites comme Twitter ou quoi, on donne l'impression que les échanges sont plus vivants justement parce que c'est en général plus facile d'être insultant avec un message, peut-être associé
c'est messagerie au sens général, mais il n'y a pas que Twitter là-dessus. Ils ont été faits pour permettre de participer sans se soucier de ce sur quoi on participe quelque part. C'est-à-dire que c'est plus facile de mettre un like, de mettre un truc et de retweeter quelque chose que de le lire, l'analyser et faire une réponse. Ce qui fait qu'en fait, il y a une propagation énorme de ces choses-là. Et la propagation, elle va se faire dès qu'on a un sentiment. Donc un sentiment qui peut être de peur, de honte, de rire. Et donc c'est un sentiment qui va être quelque chose qui est généralement décorrélé du contexte. Tout est fait en fait pour viraliser les choses. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a plus d'informations qu'avant, c'est faire en sorte que l'information circule beaucoup plus. Ces réseaux marchent avec ça. Et donc, de ce fait-là, on n'a pas l'analyse qui est faite derrière. Et ceux qui font l'analyse vont avoir effectivement la capacité à savoir que les répercussions qu'il va y avoir seront d'autant plus fortes que les propos sont violents à l'intérieur, sont polémiques, d'accord ? De façon aussi savoir à quel moment il faut le faire. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un truc qui a beaucoup de retweets, il ne faut pas le poster à 2h du matin parce qu'il n'y a personne qui est derrière son téléphone en train de l'utiliser, et que s'il y arrive, la personne se réveille à 8h ou 9h, il y a eu tellement de trucs qui ont été faits qu'elle n'a pu le voir. Donc il faut être capable de savoir à quel moment il faut le faire. Et ça, c'est les lycéens qui ont trouvé ça, c'est que, en gros, c'est le jeudi à 17h30 qu'il faut poster les trucs, parce que le lundi, mardi, mercredi, il faut bosser un peu, le jeudi, ça commence à relâcher, les lycéens ont la capacité à lire un peu des choses en fin de journée du jeudi, il ne faut pas le faire trop tôt, il faut le faire au moment où les gens sont en train de rentrer à la maison par rapport à ça. Et donc en fait, il y a une connaissance, à la fois du propos qu'il faut tenir, donc le côté polémique ou le côté exprès pour être repris, ou bien le moment où il faut le faire. Et c'est deux choses qui sont un petit peu corrélées ensemble. Donc, c'est sûr que le Twitter, finalement, récupère ça. C'est-à-dire récupère ces éléments qui sont que la facilité de discussion entre les gens, la facilité de répercussion des discussions entre les gens, c'est surtout quand il y a des pugilats et des choses comme ça. D'où d'ailleurs l'affiche pour cette... on vous aurait pas mis un combat de boxe, vous seriez pas venu à ce débat. Donc là, vous êtes venu parce que vous imaginez qu'il y avait du sang, des larmes.
Mais je pense qu'il y a... C'est encore un sujet sur lequel il y a une question d'éducation, d'acculturation, de formation. Ce qui est très compliqué, c'est que depuis que le numérique existe, ça n'a pas arrêté d'évoluer. C'est pas quelque chose de stable. D'accord. Et donc, dès qu'on commence à être habitué à quelque chose, il y a un nouveau truc qui débarque. Les gens commençaient à comprendre à peu près comment vous pouvez utiliser bien ou pas bien Twitter. Boum, débarque TikTok. Là, c'est autre chose. Donc ça c'est difficile, mais je pense qu'après, peut-être au bout d'un moment, les gens vont finir par intégrer qu'il y a des trucs qu'on peut faire, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Là, on se connaît pas, donc il y a peut-être des choses que je vous raconterai pas là maintenant, et puis que je pourrais raconter à Benoît, même si on se connaît pas super. On ne connaît pas forcément très très bien, mais comme il a dit, ça fait vraiment un peu de temps qu'on interagit régulièrement, donc il y a peut-être des choses que je pourrais lui dire à lui que je ne dirais pas à vous. Et donc, ce qui nous manque peut-être sur un certain nombre de systèmes, c'est le fait que collectivement, les gens aient compris ce qui est raisonnable de faire ou ce qui n'est pas raisonnable de faire. Donc ça, peut-être, on peut espérer que ça va s'améliorer. Après, ça passe aussi, par exemple, par changer la manière dont on parle de tous ces trucs. Tout à l'heure, j'ai dit les réseaux sociaux, et j'aime pas dire ça. Parce que de quoi on parle, en fait, quand on dit les réseaux sociaux ? Facebook, Twitter, c'est super différent. Les deux, TikTok, c'est encore autre chose. Et après, il y a une entité, vous autres, que je ne connais pas, et qui sont encore très différents. Et quand je regarde la télé, je suis à chaque fois effaré parce que j'entends en ce moment, sur les réseaux sociaux, on dit que blabla. Et là, en général, on vous montre un tweet. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur Twitter, et c'est le compte Leblanc33. Voilà. C'est un peu comme si je disais, c'est comme si dans la gazette de mon village, je lis un truc, et je dis, oh, la presse dit que blabla, parce que ça a été imprimé dans la gazette de mon village. Alors non, il y a un mec qui a écrit une feuille de chou locale, qu'il a distribué à 100 personnes. D'accord, un tweet, ça peut être ça, hein. Ça peut être juste un truc lu par 100 personnes. Et donc le truc qu'il faut, et ça commencerait par la télé, notamment... Surtout tous les journalistes qui se disent champions du debunking de fake news, mais quand ils vous disent « on va vous expliquer ce que c'est que les fake news et les vraies news », et puis que la phrase d'après c'est « sur les réseaux sociaux, on lit que », c'est bon, vous éteindre la télé. C'est qu'ils vous parlent de trucs qu'ils ne comprennent pas à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire pour expliquer aux gens « attention, les réseaux sociaux, ça n'existe pas, donc nommez le truc dont vous parlez, est-ce que c'est Twitter ou autre chose ?» Et puis un tweet, c'est un tweet. Et même un tweet vu par 10 000 personnes, ça reste un tweet. Et Twitter, c'est pas la France, c'est pas la société française, c'est pas le monde. C'est une vision de ce que c'est que la France. Et donc, même si l'intégralité des gens sur Twitter disaient que quoi, demain il va pleuvoir, on dit, ok, d'accord, c'est pour ça que ça va arriver.
Et c'est vrai que cette exigence à trouver les bons mots pour parler des choses et trouver le temps pour lire les choses aussi, c'est les deux en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable de bien s'exprimer, puis il faut être capable d'être attentif aussi. Ça, c'est des choses qui sont difficiles. Je ne sais même pas si vous lisez les mails qui font plus de 10 lignes, en fait. Ça vous arrive ? Les mails qui font plus de 10 lignes. Non, je ne sais pas. Par exemple, j'en envoie quelques-uns là, à cause de la crise sanitaire ou des éléments comme ça sur les conduites à tenir. Et c'est vrai qu'il faut être capable de les revoir de temps en temps. Mais là, je vous ai envoyé un mail avant les vacances là, sur une expérience qu'on cherche à avoir avec une société qui s'appelle Humanava. Et tellement ils n'ont pas lu le truc, si tu veux, qu'il n'y en a aucun qui a essayé de voir ce dont il s'agissait.
Le truc où tu offrais 200 euros à ceux qui voulaient participer.
Ouais, aux 10 premiers, mais bon, c'était... Et donc, en fait, c'est assez intéressant de voir que quand on veut capter l'attention, donc sur ce message, sur cette, on essaye de faire une expérience avec une société, tu vois, qui fabrique des choses, pour des contenus pédagogiques, et de voir quelle est l'approche que ça peut avoir auprès d'eux. Mais vous êtes tellement peu réceptif, ou c'est parce que c'était les vacances, ou c'était, je sais pas, il y avait quelque chose à faire. Mais il se trouve que il y en a deux d'entre vous, simplement, sur les 80, qui ont lu le mail jusqu'au bout pour cliquer sur le dernier truc qu'il y avait à la fin. Donc ça veut dire qu'on est démunis, quoi. Face à ça, s'il y avait eu des réponses, s'il y en avait 5-6 qui avaient dit, qui avaient essayé, qui m'avaient dit « Attends, c'est nul, enfin, attendez, monsieur le directeur, ce truc n'est pas très intéressant. » Enfin, je sais pas, vous auriez trouvé quelque chose pour dire les choses. Mais là, c'est l'absence complète. Donc tu vois, tu parlais de Twitter et des relances et des choses comme ça. On vit dans un monde où il y a une telle... on est abreuvé d'informations. Et finalement, on a un truc sélectif qui fait que quelque chose dont on n'a pas idée vraiment de ce qu'il va y avoir derrière, eh bien finalement, on ne va pas le regarder, on ne va pas le prendre, on n'a pas confiance, ou je ne sais pas. Il y a un phénomène qui se passe. Et donc forcément, si j'avais envoyé un mail beaucoup plus polémique ou quelque chose comme ça, peut-être que là, ça aurait pris... Il aurait fallu que ce soit court et polémique. Voilà. Ça, c'est le livre de Brunner là, qui a sorti ça il n'y a pas très longtemps. Il y a trois trucs qui vous intéressent, c'est quand il y a du sang, quand il y a du sexe, ou quand il y a de vous. En fait, c'est les trois trucs qui vous intéressent. Enfin, vous, au sens de vie, en général.
Et par rapport à ce que vous dites, nous, par exemple, quand on a des questionnaires à faire passer à tous les étudiants, on va mettre des titres qui vont attirer...
Putaclic.
Ça va être offert à tout le monde, tout le monde. Et donc, ça attire vraiment les gens. Donc,
oui, mais tu vois, on en est rendu, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même... C'est compliqué, quand même. Et là, donc, il parle de... au sein de chaque promo, en fait, il y a des délégués de classe pour essayer de faire passer les circulations d'informations. Et c'est vrai que tu te retrouves avec ce même problème. Oui, tout à fait. Bon, mais on a dérivé donc de la partie information, de la partie interface homme-machine, de la partie IA un peu aussi, vers la partie communication. Je pense qu'il y a une ou deux autres questions encore dans l'intervention. Si vous aviez, il y a quelques-uns qui ont parlé, mais il y en a plein qui n'ont rien dit, parce que c'est... Donc, tellement rien dit que maintenant plus personne ne dit rien. Bon, hein, vas-y, oui, si tu veux.
Rapidement, on a compris, la voiture autonome ou le métaverse, vous ne voyez pas ça comme vous. Rapidement, quels sont les axes de progrès que vous voyez pour les prochaines années?
Quand même.
Ça, c'est super dur, ça. Ça, c'est super dur. C'est super dur, si je pouvais magiquement décider de trucs à faire ou à financer, je pense qu'il faut arrêter de vouloir faire des trucs grandioses, justement, façon voiture qui roule toute seule, métaverse. Je pense que, par exemple, le problème que j'ai, moi, dans mon boulot, c'est, vous avez compris, moi, je suis informaticien de formation, je sais coder, j'ai codé dans plein de langages, je sais coder plein de trucs. Je sais coder, je code aujourd'hui des trucs qui mettent dans mon boulot de directeur. Je code des bidules, des scripts qui vont chercher des données à droite à gauche, qui font des tableaux de bord, des graphiques, des machins, etc. Et ce que je trouve terrible, c'est que trois quarts des gens qui bossent avec moi, ils ne sont pas capables de faire ça. Alors, pourquoi ils ne sont pas capables de faire ça? Alors, soit ils sont capables, mais ils ne veulent pas, ils n'y voient pas d'intérêt, parce qu'ils ont la même formation que moi, mais ils ne voient pas l'intérêt d'outiller leur boulot au quotidien. Et puis ceux qui y voient un intérêt, c'est ceux qui bossent au service financier, au service RH, au service qui gère les bâtiments, etc. Et qui, eux, peut-être aimeraient bien être capables de faire ce que je fais, mais ils n'ont pas du tout le... Donc je pense que le truc, ce qu'on devrait essayer de faire, c'est pas de faire des bagnoles qui roulent à notre place, c'est pas de faire des environnements dans lesquels on doit pouvoir se projeter magiquement en 3D pour voir des gens, c'est faire des trucs qui nous aident au quotidien. Et de la même manière que chez moi, j'ai une caisse à outils avec tout un tas de machins qui me permettent de bricoler, l'idée que n'importe quel Français devrait être capable de bricoler un minimum des trucs numériques, je pense que c'est important. Et c'est pour ça que je suis toujours content quand, par exemple, un jour, tout fier, j'expliquais à ma fille qui regardait des trucs sur YouTube, mais si tu veux, je peux récupérer la musique. J'ai un super programme qui va récupérer la chanson que t'aimes bien et va la sauvegarder sur le disque dur. Elle me dit, mais déjà, c'est bon, je sais faire ça. Super. Donc ça veut dire qu'elle a trouvé elle-même les moyens d'aller s'emparer d'un machin qu'elle a trouvé sur le web et de récupérer pour en faire autre chose. Et j'aimerais bien qu'on arrive à plus développer ça. Donc ça passe, par quoi ça passe? Voilà. Ça passe par sans doute de la formation plus large, un genre de techno, et puis aussi des outils qui permettent aux gens de programmer des trucs peut-être un peu plus facilement que peut-être que moi je les ai appris.
Ok. Écoute, on va s'en tenir là, je pense, pour aujourd'hui. Merci à vous, et merci surtout à toi, Nicolas, de ta présence. Et à bientôt.